19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Toujours à son habitude durant cette phase finale de l'Euro 2021, on le rappelle, Time Foot spécial Euro. Et oui, tous ensemble avec toute l'équipe de votre quotidien Time Sport, rien que pour vous. Et oui, tous ensemble, tous les soirs, 19h, 21h, 2h, rien que de football, actualité, avec les infos mercato aussi à venir, ce mercato estival qui a déjà ouvert et qui fait déjà réagir pas mal de personnes. Au menu de cette émission, ce lundi 14 juin, on parlera encore d'Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain et star international versus Giroud, et qui pour ces fameux pénaltys. L'actualité oblige avec la Croatie, un Écosse-République tchèque, sans oublier aussi toute l'actualité sur le football anglais. Et on va revenir, bien sûr, sur tous les matchs de ce groupe D. Dans la deuxième partie, dans la deuxième heure, on aura voilà, toutes les infos sur le groupe E, avec toute l'équipe qui compose ce groupe E. On reviendra sur l'Espagne-Suède, l'avant-match. Aussi, allez, pourquoi pas, un petit mot concernant le sacre aussi de Djokovic, quand même, du côté des internationaux de France. Mais on s'attardera, bien sûr, et bien évidemment, sur l'équipe de France de Didier Deschamps. N'oubliez pas de réagir avec le numéro du standard, vous composez le 01 53 48 3000 et aussi sur la Twittosphère. C'est parti à Gogo Time Foot.
Time Sport.
Et ce soir avec nous, on aura sur l'antenne Myriam, notre consultante, sans oublier Viknesh. Comment ça va?
Salut Bilal, salut tout le monde, ça va très bien. Ravi de commencer la semaine avec toi et avec toute l'équipe.
Oui, des spécialistes aussi, pour la première fois avec nous. On a William, comment ça va William?
Impeccable et toi Bilal?
Ah ben, ça va très très bien, mais tranquillement avec nous, eh oui, des petites spécialistes de nation. Notamment, eh ben, William, ça fait so British, hein, c'est bien ça, monsieur Mourad. Hein
bah, effectivement, plus British que ça, on peut pas faire.
Ouais.
Et comment tu vas Bilal aujourd'hui?
Ça va bien, ça va bien, à fond la caisse.
Merci pour cette spéciale Euro, pour cette émission. Oui. Je pense que on a un beau mois devant nous qui s'annonce. Aussi, ben, je voulais faire une petite dédicace à Claude Tollet.
Alors, à Coach Tollet.
Oui, exactement.
Allez, pourquoi?
Puisque j'étais sur le point de zapper sur TFX et les Cleaners quand j'ai vu le but de Chic avec la République tchèque.
Mais oui, oui.
Donc incroyable.
Magnifique.
C'est ça. C'est ça. Vignesh, c'est ça.
C'est
toi aussi, tu le regardes.
C'est
ouais,
tout à fait ça.
Il y a la rediffusion des fois.
Mais oui, c'est bien. Il y a la rediffusion et les replays et tout. On peut tout regarder.
Ouais.
Après le foot, ça fait toujours du bien.
Ah ben c'est bien de le voir, le coach étoilé.
Oui,
ouais, pourquoi tu lui demandes pas de venir à la maison aussi?
Moi, c'est parfait chez moi,
ah,
moi c'est impeccable. Rien à faire. Il n'y aura pas de travail, donc c'est dommage.
Ouais, ben ça va, ça c'est cool. Ah bon, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission. Allez, c'est parti.
Time Sport, l'actu bleu. L'actu bleu.
Eh oui, concernant cette équipe de France, justement, toute l'actualité dans cette spéciale Euro 2021, 19h, 21h, on le rappelle, le numéro du standard, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, on se lundi soir, le 01 53 48 3000. Avec William pour la première dans cette spéciale Euro, Viknesh, sans oublier Mourad. Eh oui, justement, ces joueurs qui les pénalty, la pression monte, les Bleus ont pris le chemin pour l'Allemagne, ça va être assez compliqué, me dit-on. Alors, Viknesh.
Bah après, oui. Après, si on parle des pénaltys, bah, il y avait un tir attitré en équipe de France. On sait tous que c'est Griezmann qui est responsable des pénaltys.
Ouais.
Après, avec l'arrivée de Benzema, ils ont voulu faire le cadeau en lui donnant le pénalty. Bon, après, ça s'est mal passé. Benzema a loupé tous ses pénaltys en équipe de France, comme par hasard, alors qu'avec Lyon ou même le Real, il n'a jamais loupé. Donc ça, c'est assez bizarre quand même. Mais après, oui, ça va être Griezmann qui va reprendre les clés du camion, même s'il en a loupé pas mal. Mais, et après, quand il s'entraîne en équipe de France, Pogba, il en met énormément. Donc peut-être que Pogba devrait prendre la suite, parce que lui, il en met énormément, il est très rarement inefficace, donc je pense que ça serait le joueur adéquat. Et surtout que Pogba, en équipe de France, il est très performant. On a vu en match amical, il répond présent, même si à United, parfois c'est délicat pour lui, il ne fait pas de bonnes prestations, en équipe de France, il est toujours là, il fait des gros matchs, il fait briller les attaquants, et même lui, il est partout. Donc pourquoi pas Pogba, ça serait pas mal, c'est à voir.
Bien sûr, 46e minute, toujours en cours, le Pologne-Slovaquie, 1-0 pour les Slovaques, on le rappelle, dans l'après-midi, c'est déjà terminé, l'Écosse a été battue par la République tchèque, 2-0, et ce soir, le match tant attendu, l'Espagne face à la Suède à 21h. Mourad, on poursuit avec l'actualité des Bleus, et William.
Oui, bah pour en revenir au statut du tireur de pénalty pour l'équipe de France, je trouve ça incroyable en fait que Griezmann puisse s'exprimer, puisse s'auto-proclamer tireur de pénalty officiel de l'équipe de France.
Ah oui, il n'en a pas la capacité.
Lui, bah, il en a la capacité, mais Deschamps lui-même, le patron, ne l'a pas désigné.
Maintenant, après, avant ensuite, c'était lui, avant c'était lui, avant que Benzema revienne.
Non mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2018, ouais. Avant c'était lui, en Coupe du Monde 2018. Ensuite, il en a raté 3 des pénalties.
Exactement,
il en a raté. Et Giroud, il en a mis aussi certains au fond. Je pense que Benzema aussi, c'était pour lui, pour le mettre un peu dans le bain. Voilà, c'était un petit cadeau pour le remettre dans le bain. Il sort d'une, enfin, il est toujours dans cette disette de
l'équipe de France.
Ouais, avec l'équipe de France où il ne marque pas. Donc, peut-être qu'il avait besoin de ça. Après, Benzema, c'est pas un joueur qui a besoin d'un penalty pour exister dans un groupe. Contrairement à Griezmann, la preuve étant, la chanson qui a été
avec un certain VG Dream.
Exactement. De VG Dream où il mettait justement le, chacun avait son rôle qualifié et VG Dream avait qualifié l'adjectif qualificatif qui a été mis après Griezmann, c'était penalty. Donc c'est pas parce que VG Dream dit que Griezmann est spécialiste en penalty que ça va être le cas en équipe de France. Donc voilà, non, ça c'est pour la petite boutade, mais personne n'avait désigné officiellement qui était le tireur de penalty. Il les a loupés, il en a envoyé dans les tribunes à un certain moment. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés. Moi j'aimerais bien voir Mbappé aussi les prendre ses responsabilités. Il est de plus en plus demandeur. Donc voilà, donc au feeling peut-être, je pense que Deschamps va remettre un peu d'autorité autour du tireur de penalty. Et j'ai bien aimé l'idée de Viknesh, notamment concernant Paul Pogba.
Ouais.
Voilà.
Pogba, William.
Pogba, il est en pleine confiance.
Alors, vas-y William.
Surtout que Pogba, bon, il a ce côté sang-froid. Donc, tu vois, il est serein quand il s'avance. Bon, il a une manière un peu particulière de les tirer. Je suis pas très fan des 30 000 petits pas avant, mais bon, il a un bon ratio.
Après, ça finit au fond. Ça qui est bien.
C'est sa technique. Après, c'est vrai que je suis pas fan. Moi, je suis l'ancienne école. T'avances 2-3 pas de recul.
Ah, d'accord. Donc, Bruno Fernandez et ses pénalties. Toi, t'es pas preneur.
Neymar non plus, il y en a plein.
Ah, le football a évolué.
Ils ont tous des techniques assez bizarres pour tirer. Bah, ça perturbe les gardiens. Ouais. Surtout que les gardiens, aujourd'hui, ils peuvent rien faire face à un pénalty. Ils peuvent pas s'avancer. Ils peuvent pas mettre un pied en avant. C'est super restreint pour un gardien d'arrêter un pénalty.
Moi, je pense qu'il y a un joueur à qui on ferait aucun reproche s'il prenait les pénalties, qu'il les rate ou qu'il le loupe, c'est N'Golo Kanté.
Ah, bah oui.
Je pense qu'il faudrait les laisser à N'Golo Kanté parce qu'on sait que ce sujet serait entériné une bonne fois pour toutes et personne ne le jugerait.
Mais est-ce qu'il va les mettre? C'est la question aussi. Parce que
non, mais s'il les loupe, personne ne lui reprochera. Donc,
ouais,
du coup, on avancera et peut-être qu'on fera peut-être un focus sur le jeu au lieu de s'extaser, au lieu de clamer un match gagné autour d'un penalty. Donc voilà, non, c'est un peu une réflexion un peu innocente, un peu naïve, mais on en a marre de ce débat autour des penalties.
Oui.
Griezmann qui se proclame tireur alors qu'il en a loupé 3. Après le mondial 2018, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés. Sois humble avant une compétition comme celle-ci.
Ouais, mais
je pense que tout le monde y a gagné.
Ah ben c'est pas mal. Parle de simplicité avec Mourad, avec William, mais aussi avec Viknesh. On va parler du groupe D, ça c'est promis, mais là c'est la page football, mais spéciale équipe de France, avec la simplicité, l'authenticité, si je peux me permettre, à l'approche de ce match face aux Allemands. On a vu qu'en 2016, les Allemands avaient perdu face à la France dans l'antre marseillaise, à l'Orange Vélodrome. Aujourd'hui, peut-être une revanche dans leur antre de Munich. Ah, ça va être assez compliqué. On est à peu près, ouais, même dans cette situation assez confortable, assez serein. Mais a-t-on pas peur des Allemands avec Neige?
Bah, il faut avoir peur des Allemands.
Ouais, mais je sais pas. On dirait que non. Aujourd'hui, non.
On est trop confiants. En fait, moi, j'allais dire que ça me rappelle en fait 2002. Parce qu'en 2002, on était favoris, on devait battre tout le monde, on avait la meilleure attaque, la meilleure équipe du monde.
Dans les rues, oui.
On devait battre tout le monde. Alors que là, en fait, j'ai la même impression. Moi, j'étais tout petit en 2002.
Ouais.
Mais là, on dirait que c'est pareil. On est super favoris, on a peur de personne.
Ouais,
on est
le
meilleur joueur du monde.
On est fort, c'est bien.
C'est ça. Mais après,
faut
assumer sur le terrain. Et ça, c'est plus compliqué.
Je pense que t'es un peu pessimiste, Victor.
Alors, il est pessimiste.
T'aurais pu prendre le scénario, et je pense qu'il est plus proche de celui-ci. Je sors vainqueur d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire 98.
Ouais.
Et j'ai un euro dans lequel je suis favori, et je remplis ma mission, et je gagne cette compétition en tant que favori. Je pense qu'on est plus dans ce scénario-là. Aujourd'hui, c'est pas.
Comme
je pense que le rapport de force a changé. Dans les années 80, c'était la peur de l'Allemand, où l'Allemand, justement, dominait le football mondial, le football européen. Aujourd'hui, je pense que c'est les Allemands qui ont peur de l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est eux qui doivent avoir peur, puisqu'ils sont champions du monde. Ils ont un effectif pléthorique avec des talents à tous les postes, sur toutes les lignes. Les Allemands sont en reconstruction. Ils ont des failles, notamment en défense. Ils ont des qualités, la vitesse.
Au milieu, l'attaque.
Donc, les Allemands, on dirait une nation lambda.
C'est une nation en reconstruction.
Ouais.
Et aujourd'hui,
c'est ça, c'est le mot.
Exactement.
Ouais.
Et aujourd'hui, le pont, c'est l'équipe de France de cette compétition.
Ça, oui,
c'est le rapport de force s'inverse. Donc, faut arrêter, peut-être, avec cette habitude de
bien
mettre
sûr
tout en haut. Au sommet des équipes, même si l'Allemagne ça reste
en mec qui
il y a la France, je pense qu'il y a l'Angleterre, même si pour moi l'Angleterre ça reste un ça reste un éternel, non justement, un éternel prétendant outsider en fait. C'est eux qui se mettent, vu la qualité de l'effectif, ils ont quand même un effectif qui fait envie à toutes les nations d'Europe. Et le vrai favori pour. Voilà, exactement. Le sélectionneur, on pourra en discuter un peu plus tard, mais c'est l'Italie. L'Italie aujourd'hui a montré que c'est un vrai favori. Comme l'Angleterre, ils vont quasiment jouer cet Euro à domicile, à Rome et à Wembley pour les Anglais. Donc moi, ce sont eux, c'est favoris. Ensuite, je dis pas que c'est des seconds couteaux, mais c'est des nations qui sont toujours présentes, qui sont capables du meilleur, pas du pire, mais à minima les demi-finales. Mais pour aller au bout, c'est l'Allemagne, l'Espagne. Moi, je vois bien en favori, voilà, je l'ai dit, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal et l'équipe de France. Moi, c'est Portugal, ce top 4 en fait, de cette roue qui se dégage.
C'est quand même la Belgique qui a fait bonne impression sur son premier match, qui a aussi un éternel outsider.
Ouais, la Belgique, c'est un éternel outsider qui accepte ce rôle d'outsider.
En tant que Français.
Non, j'essaie d'être pragmatique.
Tu as toujours raison.
Non, figure-toi, Bilal, que je regarde les matchs et je regarde les feuilles de match avant de faire des analyses. Donc, quand je regarde la défense à 4 de la Belgique, je me dis que c'est la même celle de 2018.
C'est lent.
Je me dis que c'est beaucoup lent. C'est beaucoup plus lent qu'avant. Vertonghen, il est vieillissant. Adelveld aussi, de même. Je vois que au milieu défensif, il y a aussi un vide qui a été laissé par la Belgique. Devant, c'est clair qu'il y a une météorite qui s'appelle Lukaku. On voit la star belge qui s'appelle Eden Hazard qui est un coup en dessous après sa mauvaise saison au Real Madrid. Donc il a été blessé, c'est pas forcément qu'il a fait une mauvaise saison, mais il a une condition physique à retrouver. Donc moi je vois la Belgique en deçà de ce qu'elle proposait en 2018.
Carrément. Voilà. Mais c'est sûr qu'ils ont plus de leader technique comme avant. En 2018, il y avait des joueurs qui étaient là, qui étaient en tant que leader. Même Courtois, il était très bon. Même la défense, elle était bonne, mine de rien, même s'ils étaient lents. Et là, c'est les mêmes joueurs, ils sont plus lents. Certains, ils sont même pas titulaires dans le club.
Il y a Kevin De Bruyne qui est absent. On a Witzel qui est absent. Même on devant, a la version Wish d'Eden Hazard qui est son frère, Thorgan Hazard.
Même Thorgan, il est meilleur qu'Eden.
Exactement. C'est incroyable.
Donc, la Belgique, non.
La Belgique, moi je pense que c'était l'adversaire en face qui était peut-être un peu moins bon. La Russie aussi, c'est pas la Russie de 2018, où ils étaient. Je pense qu'ils avaient vraiment atteint leur paroxysme en termes de football. Là, ils sont revenus à des standards qui sont un peu plus sévères, c'est-à-dire un effectif assez limité. Il y a même moins de viviers issus du Zénith Saint-Pétersbourg, du Spartak Moscou. Donc ça s'appuie moins sur ce vivier-là.
C'était la Belgique,
un peu comme l'Écosse aujourd'hui.
Aussi, aussi.
Non, mais les valeurs sûres de ces équipes-là qui ont des championnats, alors, on va dire, qui leur permettent justement de faire des parcours honorables, c'est-à-dire à minima sortir des poules et atteindre les huitièmes de finale, c'est de s'appuyer sur un championnat fort. L'Écosse aujourd'hui, quand tu regardes son 11 de départ, il y a très peu de joueurs du Celtic Glasgow. Très peu de joueurs des Glasgow Rangers. Et c'est pareil pour la Russie. Très peu de joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans des championnats de seconde zone ou dans des équipes de seconde zone. Et je pense pas que ce soit la bonne identité, philosophie à adopter. Parce que les automatismes, c'est important pour ces équipes-là. C'est ce qui fait que ils sortent plus ou moins des phases de poule, c'est grâce aux automatismes. Voilà.
C'est aussi ça. La France en a alors. Bah en France, de ces automatismes.
Bien sûr, c'est pratiquement la même équipe. Depuis 3-4 ans, c'est pratiquement la même équipe.
Avec
Benzema qui venait s'ajouter. Mais sinon, c'est la même équipe. Un ou deux joueurs très. Ils savent jouer, ils connaissent la technique de Deschamps. Et c'est le pragmatisme. Et après, c'est pas compliqué avec Deschamps. On sait comment ça se passe.
Le groupe vit bien avec Neige.
Bah, ça, c'est obligé. Enfin, c'est normal. Après, c'est un groupe qui se connaît. Et voilà, ce sera l'occasion de montrer s'ils sont vraiment bien entre eux. Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème entre Mbappé et Giroud. Okay. Ça sera demain.
Ah ben ça va. En tout cas, ça se passe bien alors cette équipe de France.
On espère pour eux.
On est très sûr. Dans les rues en France, ça se passe pas très bien.
Je sens une naïveté candide, Vic Neige. Ouais. C'est incroyable. Il vit dans le monde des bisounours. Tout est mieux dans les meilleurs des mondes.
Ah ben c'est bien, Vic Neige.
Il y a des questions missiles dans les couloirs de Clairefontaine et dans les couloirs du Stade de France. Et pour Vic Neige, tout va bien. Il y a des problématiques de penalty. Il y a des crises d'ego, des guéguerres d'ego entre Mbappé et Giroud. Il y a Benzema qui marche sur des œufs. Et pour Vic Neige, tout va bien.
Il faut des embrouilles, il faut que ça se règle.
William,
ça motivé.
Peut-être. Cette équipe de France, allez, avant la pause.
Ah oui, comme on a dit, c'est un groupe qui vit bien. Ils sont tous plus ou moins amis dans la vie en dehors.
Les deux business.
C'est bien rodé tout ça depuis 3-4 ans. Hein. Ils sont presque tous dans la même catégorie d'âge. Donc je pense que ça facilite. Hein. Ça se voit sur le terrain, hein, de toute manière. Hein. C'est un groupe qui vit bien. Ouais. Je pense, malgré quelques petits accrochages comme ça.
Ils en font quelquefois.
Ça fait partie de la vie. C'est d'un groupe.
Ouais. Même nous, à notre moindre mesure, on jouait en division 4 dimanche matin. Il y avait des frictions. Pourtant, on n'était pas des Ronaldo. Hein.
C'est pas faux.
Hein, ouais, qui c'est vrai. On ne sait pas. Hein.
Ouais. Et toi aussi.
Des Ronaldo, on ne sait pas.
Hein. Ouais. Toi, tu l'es.
Je sais pas.
Ouais. Ah, sans tu doute. Sais pas.
Non,
ouais.
Non. Moi, j'étais Yannis l'a confirmé. Castolo de PES. Ouais. Ceux qui ont la rêve.
Ça, c'est bien, ça, William. Oui, Mourad, cette équipe de France, pour terminer. Ça va, on va aller piano alors, donc demain du côté de Munich.
Ben, je pense que
avec les Bleus.
Je pense qu'on peut faire tous les débats du monde tant que on n'a pas été lancé dans le grand bain.
Face à l'Allemagne.
Voilà, exactement. Je pense que le débrief sera plus important que l'avant-match, puisqu'il y a tellement de certitudes et d'incertitudes concernant cette équipe de France.
Oui.
Ben, je pense qu'on va pouvoir en parler longuement après ce match face à l'Allemagne à Berlin, qui évoluera à domicile. Avec ce soutien du public, ce 12e homme qui sera très important, et ces incertitudes autour des complicités de chacun, du rôle de Benzema, du rôle d'N'Golo Kanté, de l'animation au milieu de terrain, de la capacité des latéraux, même si
critiqués,
même s'ils seront à domicile,
le jeu de Didier Deschamps,
latéraux français,
toujours,
à prendre le dessus sur leur vis-à-vis allemand. Il y a aussi Loris. Je pense que les gardiens, on l'a vu, c'était un des récits. Je sais pas si ça se dit, c'est des récitals de gardiens ou des récitaux, des récitals de gardiens. On a assisté à des récitals de gardiens aussi durant cet Euro. À voir si Loris en fera partie. Voilà.
Ça, c'est sûr. La Pologne, Mourag, a égalisé, excusez-moi, par l'intermédiaire de Linetti à la 46e. Oui. Avec Neige, c'est pas mal. Un but partout,
bien,
là.
C'est très bien. Parce que la
Pologne, Slovaquie.
Bah oui, normalement, la Pologne doit faire la différence
contre
la Slovaquie. Donc, oui, c'est important qu'ils égalisent. Et après, là, il faut faire la différence. Il reste quelques minutes en plus.
C'est un peu des cousins éloignés, la Pologne et la Slovaquie. C'est un petit derby, un peu comme l'Angleterre et l'Écosse.
C'est ça. Ouais.
Donc,
Europe de l'Est.
Parfois, le talent parle un peu moins et c'est plus. C'est plus de l'intensité et du duel qui fera la différence en ce type de match.
Vous restez avec nous, avec Mourad, avec William, sans oublier Viknesh sur l'antenne de Beur FM. On revient, on est ensemble jusqu'à 21h. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et à de suite pour parler de ce fameux groupe D.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, toute l'équipe de Time Foot, 19h, 21h sur l'antenne de Beur FM jusqu'au 11 juillet, c'est promis. Vous aurez après toutes les infos dans cette émission, on le rappelle. Bon, le groupe D, c'est maintenant, et aussi le groupe E juste après. On va parler cette fois-ci de l'Angleterre face à la Croatie.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Voilà, on a pour sa première notre spécialiste football anglais en la personne de William, sans oublier Mourad. Eh oui, que ça soit les Gunners, Everton ou encore tous ces clubs de la capitale anglaise, excusez-moi, londonienne. Oui, non, mais c'est ça, excusez-moi. Mais aussi Viknesh, amoureux de ce football dit total. L'Angleterre débute bien justement cette campagne européenne, Mourad, face aux Croates.
Mais effectivement, ils débutent bien. Faut savoir que beaucoup dans les médias parlaient de revanche. Pour moi, concernant l'Angleterre, c'est un peu la continuité de ce qui se passait en 2018. Alors que, à contrario, la Croatie, c'est plus la fin d'un cycle, vu le vieillissement de l'effectif. Je pense qu'il faut resituer un peu le contexte. Il y a un sélectionneur qui est beaucoup décrié dans son pays, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que William s'en souvient très bien, qui était à l'origine du pénalty raté en 96 face à l'Allemagne.
J'étais un peu jeune, mais ouais, on s'en souvient.
Exactement, ouais. Je pense que ça t'a marqué. Il y a un effectif pléthorique à disposition. Il y a la pression des tabloïds.
Oui, qui est toujours là.
Il joue dans son antre mythique, c'est-à-dire Wembley, quasiment à domicile. J'ai analysé le parcours en cas de qualification. S'ils vont en finale, ils vont jouer quasiment tous les matchs à Wembley, sauf le quart de finale à Rome. Donc c'est incroyable. Et du coup, il a eu à faire des choix forts. Donc entre le moment où il annonce la compo et le moment où le match commence, il est beaucoup décrié. Il met Trippier à gauche. Sachant que c'est un droitier, il fait le choix de Phillips qui joue en D2 anglaise il y a quelques années. Il met Marcus Rashford sur le banc. Ian Grealish qui est un peu, on va dire, l'enfant roi anglais qui est sur le banc et qui est privilégié à Sterling,
oui,
justement. Et Sterling qui est dans son quartier justement.
Alors,
puisqu'il a grandi à 600 mètres de Wembley et qui vient délivrer les Anglais. Donc
voilà, là, c'est le top.
Tous les choix de Southgate pour l'instant ont été sont justifiés.
Oui, d'accord. Oui.
Mais je pense que s'il sort pas des poules, ou s'il fait un parcours infructueux, c'est-à-dire avec une élimination prématurée,
ouais,
je pense qu'il devra changer de nom et s'appeler au moins Gérard Porte Sud et emménager dans le sud de la France.
Ah oui, c'était
donc, c'est ce que je pense.
Du groupe D, voilà.
Il y a tellement d'attentes autour de cette sélection.
Ouais, il aime bien le sud de la France, hein, même s'il aime le club de la capitale française.
Non, c'est les Anglais qui aiment le sud de la France.
Oui, je sais, mais nous aussi, Viknesh.
Côté du Périgord et la French Riviera.
Bien sûr. Bon, Mourad aussi, il aime bien ce côté-là, l'arrière-pays aussi provençal.
Oh là là, la bière.
William, on vous écoute, messieurs.
Bah après, pour parler de l'Angleterre, etc. Bah là, c'était le premier match, c'est le match le plus important. Il fallait faire la différence contre la Croatie, qui était, même si c'est même plus la même Croatie qu'en 2018, c'est une autre équipe, mais ça reste, on va dire, les deuxièmes favoris après l'Angleterre. Donc il fallait s'imposer, il fallait faire la différence. Même si les choix, on va dire, de Southgate, ils étaient beaucoup remis en question, il y avait beaucoup de doutes, il y en a toujours, parce que ça reste qu'une petite victoire 1-0. il y a beaucoup de doutes. Il faut voir dans la continuité de la compétition. Mais oui, il faut que l'Angleterre soit au moins en demi-finale parce qu'ils ont l'équipe pour. Là, le match.
Ils n'ont jamais gagné un match d'ouverture, les Anglais. C'est ça. Donc 1-0, là, je pense qu'ils prennent.
Ils mettent toujours 1-0, même dans les matchs amicaux, etc. Ils ont toujours fait 1-0, 1-0, 1-0. Mais le seul problème hier pour moi, c'est qu'on n'a pas énormément vu Harry Kane. Ça, c'est dommage. Pourtant, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est le leader de l'équipe. Et on ne le voit pas dans un match comme ça.
Je vais laisser William rebondir un peu sur l'Angleterre. Mais j'ai ma théorie sur Harry Kane et j'aimerais bien vous en parler et en parler aux auditeurs aussi.
Parce qu'on en parle. Et oui, l'actualité de cet Euro 2021, on le rappelle. Toute l'actualité, rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM sur cette antenne. William, les Anglais, le groupe D.
Écoute, moi, franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout été rassuré en voyant le match.
Ça fait peur, là.
Non, moi, je suis assez pessimiste quand il s'agit de l'Angleterre parce qu'il nous propose. Il nous propose un jeu qu'on voit depuis 10 ans. C'est comme ça. C'est stéréotypé. C'est unilatéral. Moi, comme d'habitude, moi, je trouvais qu'ils avaient un mal fou à ressortir le ballon.
Exact.
C'est long, c'est lent. Non, moi, pour te dire la vérité, je pensais même que la Croatie allait faire un meilleur résultat. Peut-être un match nul ou même gagner. Bon, ils ont fait le boulot, ils ont fait l'essentiel. 1-0. On le sait tous, mais bon.
Il y a eu un facteur X, justement. Et sur le fait de ressortir les ballons, je pense qu'à minima, s'ils ont ressorti les ballons, on va dire, de manière assez propre, et qu'ils ont pu justement aller, je pense à Phillips, aller faire cette passe décisive à Sterling pour qu'il puisse ouvrir le score, c'est le facteur I, c'est Phillips, justement, le Pirlo du Yorkshire, tel qu'il a été qualifié dans les médias, récemment. Je pense qu'il a fait un gros match, il était inconnu.
Ouais, c'est le meilleur sur la pelouse, pour moi.
C'était l'un des, exactement. Ouais. C'est un mieux box-to-box que Bielsa a remodelé, à son image, avec les United. Aujourd'hui, il est capable, il lui a donné le numéro 4. Le numéro 4 en Angleterre, c'est l'équivalent du numéro 6. Donc, il lui a donné le numéro 4 en disant, tu vas être le meneur de jeu point de base de Leeds United et tu vas jouer en meneur de jeu. Et c'est ce qu'il a fait. Il est plus box-to-box, il est plus à la Pirlo. C'est une rampe de lancement pour les Sterling, pour les Phil Foden, qui a aussi eu une très bonne partie. Donc, moi, j'ai bien aimé Phillips. S'il y avait eu un Euro 2020, si l'Euro 2020 avait eu lieu en 2020, on n'aurait pas vu Phillips.
On
n'aurait pas vu Phillips. On n'aurait pas vu Phillips. On l'aurait pas vu. Donc voilà, il peut remercier, je dis pas qu'il peut remercier le Covid, mais fait que ça a été décalé. Donc sinon, on n'aurait pas eu joueur. Mais pour Harry Kane, je voulais revenir justement sur ma théorie. Pour moi, Harry Kane, vous savez qui me fait penser? Et pour ceux qui s'extasent autour de Harry Kane, pour moi, il a 5 ans de retard, voire 6 ans de retard. Harry Kane, c'est le Benzema de 2015. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est dépendant.
Yannis, c'est d'accord.
Je pense que c'est un joueur qui est dépendant d'une star ou du meilleur joueur de son équipe en club, qui pour moi est Son à Tottenham. Il est très dépendant de lui, un peu à l'image de Benzema qui était dépendant de Cristiano Ronaldo. Et en équipe nationale, c'est pas un avant-centre puisqu'il a l'habitude de décrocher et de jouer le rôle de Robin dans Batman et Robin pour pouvoir faire briller le joueur star de son équipe. Et donc il est un peu perdu. Donc je pense que pour qu'il puisse progresser et atteindre ce palier, il faut qu'il aille au Real Madrid, qu'il fasse ses gammes, un peu comme Benzema, qu'il apprenne à évoluer seul en avant-centre, décrocher, faire le jeu, récupérer les ballons un peu plus bas, aussi être à la réception des centres. Et j'ai l'impression que c'est assez stéréotypé, comme l'a dit William. Il est plus quelqu'un qui va reculer, faire le jeu.
Il est là pour faire
le jeu. Et quand il n'a pas quelqu'un qui est un ailier, qui a le potentiel de marquer, alors, un peu comme Minson, on le sent un peu perdu.
Alors vas-y, Knesh.
Après, il y a
des joueurs
en Angleterre pour faire le rôle de Son. Il y en a Rashford qui est sur le banc, même Sterling. Ils peuvent prendre ce rôle-là.
Sterling, il sort d'une saison catastrophique avec City.
C'est ça.
Il est dans son back garden à Wembley. Il habite à 600 mètres de Wembley.
Ça,
donc,
c'est chez lui, donc c'est l'équipe de l'Angleterre.
Il habite à 600 mètres de Wembley, donc il est à l'aise dans ce stade-là. Il a fait les efforts défensifs. Le cachemire de Taj Mahal, c'est pas mal, si vous souhaitez. Il y a des restaurants indo-pakistanais très bons autour de Wembley.
Ouais, délicieux. Ah oui, avec Neige, on va y aller, on ira avec Neige.
Il faut y aller, on ira en groupe. Mais sinon, pour revenir sur le match et pour Kane, oui, je pense qu'il y a des joueurs comme Son qui peuvent prendre sa place. Rashford, Sterling, ils sont là pour ça, ils peuvent endosser ce rôle-là et ils peuvent être performants. Et surtout qu'ils sont sur les côtés. Kane peut jouer en numéro 10, numéro 9. Donc,
c'est trop brouillon, Sterling,
c'est ça,
par rapport à Son.
Oui, il y a des brouillons, même Rashford, c'est brouillon. Mais ils peuvent le faire. Je ne peux pas dire que c'est le même joueur.
Rashford, il se marche dessus avec Harry Kane. C'est une théorie mûrement réfléchie, Viknesh. Je sais que tu essaies de la contredire, mais c'est mûrement réfléchi. Sterling, c'est trop brouillon. Rashford, il se marche dessus avec Harry Kane. Et Phil Foden, c'est pas le même profil, c'est plus un ailier. Il est là pour alimenter éventuellement un Karim Benzema ou éventuellement un Harry Kane s'ils jouent ensemble.
William, alors.
Moi, ce que j'appelle, t'as le syndrome des joueurs britanniques qui sont performants. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs avec de faux statuts, je dirais, comme Sterling. Sterling, c'est un beau nom. Sur FIFA, il est à 88, on adore tous. Mais une fois sur le terrain avec l'Angleterre, franchement, c'est, il a jamais été performant. Quasiment jamais. Ouais. Je veux dire, il sort d'une Coupe du Monde 2018 désastreuse, où il mettait pas un pied devant l'autre. Bon, la Ligue des Nations, si on la prend en compte, c'était pas fameux non plus. Et il y a beaucoup de joueurs, en fait, comme ça, qui,
alors,
si on doit remonter, tu vois, des Gerrard ou des Lampard qui étaient des légendes vivantes dans leur club, quand ils viennent avec la sélection, ils arrivent presque plus à mettre un pied devant l'autre.
Je pense que la rivalité intra-club, je pense que t'as raison, William. La rivalité intra-club prend beaucoup le dessus. On l'a vu, Sterling avait eu une altercation avec un joueur de son exactement, avec son coéquipier de Liverpool. Donc on sent que, mais cette saison, je sais pas. Enfin, durant ce tournoi-là, j'ai l'impression que c'est un peu mis de côté. Il y a les égos clubs qui sont mis de côté.
Oui, et puis c'est pas,
je les vois bien. C'est pas la même génération. Je les vois bien faire un beau parcours. Le seul point noir que je vois à cette sélection anglaise, c'est
l'entraîneur.
Non, c'est ou déjà l'entraîneur. Effectivement, c'est l'entraîneur peut-être.
On l'a senti.
La défense avec Wings, c'est un peu brouillon.
T'augmente un peu de niveau, puis ils sont très vite dépassés. Hein.
Wings, ils l'ont très bien entouré. Ils ont mis Trippier, qui est beaucoup plus défensif à gauche. Ils ont mis Declan Rice de West Ham devant lui, qui est très défensif. Ouais. Donc ils ont tout fait pour éviter la première débâcle de Wings en équipe nationale anglaise. Ouais, mais moi, je pense que un des défauts majeurs de l'équipe en Angleterre, c'est justement c'est son effectif qui ne joue pas dans les championnats majeurs étrangers. Et donc ils peuvent pas s'imprégner de la philosophie de jeu d'autres nations, c'est-à-dire si un Declan Rice jouait à Juventus, peut-être qu'il serait au courant un peu du tempo à l'italienne, peut-être qu'il serait moins dans la pression, qu'il aurait,
exactement. La première ligue, hein.
Donc, ils ont du mal à quitter la première ligue, c'est une question de prix, c'est une question de salaire, c'est du foot business, ils la quittent pas.
Ils sont au meilleur endroit pour ce qui est salaire, hein.
Voilà, Maguire, et personne mettrait 90 millions d'euros sur Maguire, hormis Manchester United. Je pense pas que l'Inter ou l'Atlético Madrid mettrait 90 millions sur Maguire. Et
pourquoi pas, moi?
Venu de Leicester City. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Et là aussi, j'ai ma théorie là-dessus.
Il faut pas être dans la théorie, hein, parce qu'elle est composée.
C'est pas une théorie du complot, mais c'est très avéré.
Tout doux, hein.
Dans les prises d'otages, un otage anglais vaut plus cher qu'un otage d'Afrique subsaharienne ou d'un maghrébin ou peu importe. Un anglais, ça coûte cher. Et Maguire, dans le football, ça coûte 90 millions d'euros, alors que pour moi, Eric Bailly, il vaut le même prix. Enfin, Harry Maguire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vérifier, c'est sous le coup d'une boutade.
Anglais,
ça coûte cher.
Tu as compris. Alors, vas-y,
c'est le mercato intra-anglais. Donc, les clubs anglais, ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent. Alors que si c'est un autre joueur, s'il y a la Juve qui veut acheter Maguire, ils ne mettront jamais 90 millions. Parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils ne veulent pas le faire. Alors que United, ils peuvent le faire tranquille. Parce que c'est Leicester, négociation, ils ont l'argent, donc tout va bien entre eux.
Non, mais là, comme disent les Anglais, tu réfléchis out of the box. On va dire plus de 50% du marché des transferts, ils se concentrent en première ligue, sort pas de la première ligue, reste en Angleterre.
Même plus que ça, je pense. Hein. Plus que ça.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Donc,
ce que représente le marché des transferts en Angleterre, c'est juste, je pense que en termes de poids, c'est plus de 50% du flux des transferts.
Il est arrivé un incident du côté de Wembley, un spectateur de la rencontre entre l'Angleterre, on le rappelle, ce dimanche, et la Croatie, a basculé par-dessus une barrière, Mourad, au moment du coup d'envoi. Il a été transporté à l'hôpital, là aussi, la sécurité dans les stades, mais peut-être à déplorer. Et aussi, quand même, la personne est toujours dans un état très grave.
Bah, c'est le 12e homme, homme anglais. On connaît les Anglais et leur ferveur autour du football. Il y a eu plein de drames en Angleterre, dans les stades.
Malheureusement.
Malheureusement, c'est assez connu.
Oui.
Là, ils retrouvent leur équipe nationale. On sait qu'ils se mettent à consommer de l'alcool très très tôt.
C'est parce que Wembley, ça reste quand même un stade familial. Hein,
Mais l'infrastructure est assez nickel.
Est-ce que vous avez vu la ferveur dans...
Tu bouges pas une oreille dans les stades en Angleterre généralement.
Moi, quand j'ai vu le public anglais, je me suis dit, ils sont chauds, quoi. Ils sont torse nu, ça se bouscule. Donc il y avait cette ferveur anglaise, ça faisait plaisir à voir. Mais on sait très bien qu'il peut y avoir des dommages collatéraux et en l'occurrence, des chutes ou des bousculades. Et je dis pas que ça fait partie du jeu, c'est triste ce que tu nous annonces, Bilal. Mais je pense que l'alcool n'y est pas étranger.
C'est ça, beaucoup trop d'alcool peut-être dans les stades. Donc que ce soit en Angleterre, mais même chez nous en France ou en Allemagne, en Europe quoi.
C'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est un match de foot, donc il faut
pas dans les
plaisir.
Stades, autour des stades.
Il
y a l'arnaque en fait de consommer autour des stades
et
rentrer sans alcool, mais on est toujours sous alcool.
Ouais.
Et après, il y a les loges aussi où on peut. pour moi, il y a un système inégal.
Dans le stade même aussi, en Angleterre, la vente d'alcool est autorisée dans les stades. Donc, il suffit d'aller dans
exactement.
Les
cultives
et voilà. Hein.
Exactement.
Ouais.
Avec modération, toujours.
Bien sûr.
Alors qu'en France, il y a cette hypocrisie, effectivement.
Exactement.
Où il n'y a que les VIP qui ont accès dans les loges.
Dans les loges, ils peuvent voir tant qu'ils veulent.
De champagne. Alors que les petites gens, qui sont des vrais fans de foot, doivent s'alcooliser en dehors des stades et arriver
le
peut-être
groupe
un peu éméché.
Avec Mourad, William et aussi Viknesh pour en parler. Sans oublier, cette Écosse, République tchèque. Et l'Écosse, si je peux me permettre, mais aussi se sont donné quand même un match assez compliqué en début de période. Bon, la République tchèque a remporté le match 2-0. On va essayer d'en reparler rapidement après la dernière pause de cette première heure. Et après, on verra aussi plus longuement la fameuse sélection de la Croatie. Allez.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, avec tous les membres du groupe D avec moi, Mourad, William, sans oublier Viknesh. On est toujours ensemble jusqu'à 21h et non pas 20h, on le rappelle, Time Foot, 19h-21h jusqu'au 11 juillet sur l'antenne de Beurre FM, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01-53-48-3000. Allez, on aborde le cas de l'Écosse face au Tchèque.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, c'est Chic justement qui offre deux buts pour la République tchèque et donc un but magistral. Viknesh, on aborde avec toi.
Ouais, mais après, la République tchèque, c'est une bonne équipe, mais moi je pense que l'Écosse, moi je préfère l'Écosse parce qu'il y a plus de solidité, c'est plus une équipe. Après, le côté britannique qui fait que l'Écosse, il y a des bons joueurs. McTominay, moi je l'aime.
25 ans après sa dernière participation.
Est-ce que tu as vu la prestation de McTominay aujourd'hui? J'étais très déçu par McTominay aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
Très déçu.
Au milieu, ils n'ont pas été performants du tout, alors que c'est une bonne équipe, ils ont un bon milieu. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait les derniers matchs, etc. Mais ouais. Là, aujourd'hui, contre la République tchèque, non, c'était décevant et non, c'est dommage qu'il passe à travers comme ça. Alors que la République tchèque, certes, il y a Patrick Schick, il y a même Adam Loza, le meilleur buteur de la République tchèque. Il a plus du temps, il est bon, mais il n'y a pas une grosse équipe à la République tchèque. C'est même plus la République tchèque.
Il n'y a pas de Poberski, il n'y a pas de Kohler, il n'y a pas de Pavel Nedved. Il
n'y
a pas de Milan Baroš.
C'est une autre génération.
Mais un joueur qui s'appelle Schick et qui a mis le but le plus lointain depuis des années avec la République tchèque.
Incroyable.
Non, mais je vais en revenir parce qu'il dit qu'il préfère l'Écosse. Il dit qu'il préfère l'Écosse. Moi aussi, j'aime bien l'Écosse. Je suis adepte du kick and rush. J'aime bien l'Homestead Stadium qui est l'équivalent du Stade de France pour l'Écosse. J'aime bien McTominay. Exactement, j'aime bien McTominay, j'aime bien Tierney qui a été écarté, je pense qu'il a chamboulé tout le système de jeu le système écossais. J'aime bien Robertson aussi qui a eu 2-3 fulgurances. Mais aujourd'hui, l'Écosse, c'était d'un brouillon incroyable. C'était du kick and rush. Si tu tapes kick and rush sur YouTube, je pense qu'il est intéressant de montrer la première mi-temps de l'Écosse. Ça tirait, il y avait des longs ballons, il y avait des duels incroyables, ça dégageait dans tous les sens. On a l'impression de jouer à la PlayStation sans le joystick. Donc moi c'est l'impression que j'ai eu en regardant l'Écosse. C'était très brouillon et en face il y avait Schick. Moi j'ai un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Janko sur le côté gauche avec sa teinture blonde. J'ai beaucoup aimé son style de jeu, son toucher de balle, sa qualité de centre. Il y a la doublette aussi de West Ham, Koufal et Suchek aussi. Je sais pas si vous avez vu l'action sur le dédoublement à montrer dans toutes les écoles où on a le centre c'est le centre de Koufal, c'est ça pour la tête de Schick. Donc qui était incroyable. Donc voilà, il y a beaucoup de limites côté écossais. Ils ont pareil la théorie que je mettais en avant tout à l'heure justement sur le fait que l'Écosse ne s'appuie pas sur le Celtic Glasgow et le Glasgow Rangers. Je pense que ça les impacte. Il y a beaucoup de joueurs de seconde zone, de première chip anglaise ou de joueurs qui jouent les seconds rôles dans des équipes de première ligue. Je pense que psychologiquement ça peut les impacter. Hormis Tierney et Robertson, il y a eu peut-être l'entrée de, je pense que c'est Adams, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais voilà, l'Écosse rate son entrée. Et la République tchèque a fait preuve de réalisme. Voilà, je sais pas ce que William en pense. J'aimerais bien avoir son avis sur l'Écosse.
Bravo William, justement.
En plus, du coup, la République tchèque a mis la pression aussi sur la Croatie parce que ils prennent la tête du groupe avec le goal average. Donc, mais c'est vrai que l'Écosse était faible. Hein. Moi, je m'attends à un carton plein de l'Angleterre face à eux.
Ouais, en plus que c'est, quand on sait. Après, je sais pas, Écosse-Angleterre ou Angleterre-Écosse, c'est un des plus vieux derbies internationaux du monde.
Carrément.
Je sais pas s'il existe depuis la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle. Donc, ça va être intéressant de voir ce duel entre deux cousins éloignés. Et après, faut savoir que, je pense à la phrase de Sir Alex Ferguson qui disait, les Écossais et les Français, on s'entend bien puisque tous les deux, nous détestons les Anglais. Donc, et je pense qu'on va être dans cette optique-là. Je pense que ça va être une bataille de duel et d'intensité entre l'Angleterre et l'Écosse. Il faudra être au rendez-vous. Il ne faudra pas s'attendre de la part de l'Écosse à un récital de circuit court en alternant jeu court, jeu long avec des contrôles emporte-manteaux tels qu'on a pu le voir avec Phil Foden hier face à la Croatie. Donc ça va être un tout autre match. Mais impatient de voir ce type de derby, c'est intéressant.
À la dernière partie avec notre invité de ce soir.
Time Sport.
Eh oui, un professionnel, un connaisseur, un fin connaisseur du... Oui, Mourad.
Non, justement, j'attendais que tu remondisses un fin connaisseur
Un fin connaisseur, justement, de ce football croate qui est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Oui, car les Croates, Mourad, veulent encore y croire. Ce n'est pas terminé l'Euro 2020 pour eux. Et nous sommes justement avec ce fin connaisseur, avec le membre créateur de l'actu foot croate qui est Cédric. Bonsoir Cédric, comment allez-vous?
Ça va très bien. En plus, là, maintenant, il y a le deuxième match.
Eh oui.
Donc, on en fait un petit peu plus, en tout cas.
Ah ben, il en faut, Cédric, il en faut, justement.
Il en faut, c'est certain, parce que là, c'est vrai que, voilà, vous avez vu le match contre l'Angleterre et les Croates.
Eh oui.
On peut dire fantomatique, hein, en attaque. C'est malheureusement un des problèmes depuis, on va dire, depuis la fin des éliminatoires pour l'Euro. Et il va falloir trouver une solution.
Eh bien sûr. Et on aimerait l'avoir avec vous ce soir. Ouais. Il en faudra des buts, ça c'est sûr. Cédric, on le rappelle, hein, fondateur de l'actu foot croate qu'on peut retrouver aussi sur la Twittosphère, hein, foot croate au singulier. Mais c'est vrai, les Croates, par l'intermédiaire par exemple de Dalic, disaient que on ne peut pas lâcher. L'affaire, doit continuer et aussi sur ces matchs de poule. Voilà quoi. On se doit d'y croire. Surtout une nation telle que la nôtre. Vous en pensez quoi?
C'est certain. Et puis quand même, quand on est encore vice-champion du monde, il faut quand même vouloir passer le premier tour, ça paraît être la base. Maintenant, c'est vrai que l'objectif de la sélection, c'est un peu le même à chaque compète. Et malgré ce statut de deuxième à la Coupe du Monde, ça reste toujours de passer le premier tour. C'est ce que Marcel Dalic d'ailleurs, pour la suite, on verra. Et en effet, avec les problèmes, on va dire, d'animation offensive et un petit peu défensive, mais ça allait mieux pour l'Angleterre. Passer ce premier tour est absolument fondamental et aujourd'hui c'est même le seul objectif pour l'instant parce qu'on voit que c'était compliqué quoi.
Alors,
et moi j'ai une petite question.
Ouais, Vignesh, et aussi Mourad et William.
Parce que on connaît la Croatie avec la finale en 2018. Comment vous expliquez les difficultés depuis? Qu'est-ce qui se passe en Croatie?
Déjà forcément il y a quelques tauliers qui sont partis après la Coupe du Monde, non seulement des tauliers sur le terrain mais aussi de vestiaire. Donc c'est sûr qu'un Šubašić, un Mandžukić, un Rakitić qui sont partis après la Coupe du Monde, enfin qui tichent un petit peu plus tard, ça change pas mal. Hein. Faut savoir que l'effectif croate, et ça pour toutes les générations, change peu, en tout cas, met beaucoup de temps à changer. Et donc quand il y a des cadors comme ça qui s'en vont, il faut trouver des remplaçants.
Mais ça c'est valable pour toutes les sélections du monde. On a Brozovic qui a été incorporé, qui est champion d'Italie. Il y a Kramaric qui est toujours présent, et même si c'est pas Mandžukić, mais c'est quand même plus de 20 buts en Bundesliga. On a Rebić qui a performé avec le Milan. Donc je pense que, je sais pas, c'est peut-être le vieillissement du milieu de terrain, ou notamment d'un Luka Modrić.
Alors Cédric.
En effet, ouais, pardon. Il y a cette frustration, forcément, parce qu'il y a des super joueurs, des Kramaric qui performent, il y a même quand même de sacrés noms dans cette équipe. Mais c'est cette impossibilité aussi, et notamment c'est pour ça que Dalic est un peu critiqué, que peut-être on a atteint ici un peu la limite du coach. C'est que souvent c'est aussi un peu le problème avec la sélection croate, c'est qu'on a souvent des coachs qui sont plus des meneurs d'hommes, qui sont capables de galvaniser les troupes. Ça marche souvent comme ça avec l'équipe de Croatie, et tactiquement c'est souvent un peu limité. Et malheureusement là, ce 4-2-3-1 qu'on commence à connaître pas absolument par cœur, il y a eu quelques changements qui avaient été faits pendant les éliminatoires mais qui ne fonctionnent pas. Et donc on en revient toujours à ce schéma. Et le problème, c'est que les joueurs remplacent souvent poste pour poste les anciens. Et là, ça ne fonctionne pas. Quoi.
Moi, j'ai beaucoup aimé la Croatie qui est revenue à un semblant de 4-3-3 avec un Modric qui est redescendu plus bas. On l'a vu très haut en première mi-temps. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu en penses justement du repositionnement de Modric face à l'Angleterre en cours de match?
C'était justement pour régler cette problématique de marquer des buts. L'idée, c'est de remettre justement Modric plus en vraie position de 10, qu'il recule moins vu que Kovacic a retrouvé une place de titulaire parce qu'avant l'Euro, c'était pas du tout gagné pour lui.
C'était très bon hier, Perisic. Kovacic.
D'accord. Ouais, qui a retrouvé une place de titulaire parce qu'on était auparavant sur un schéma avec au milieu Brozovic, Modric et Vlašić. Vlahovic, qui est pour le coup, on peut considérer un peu le joueur le plus attendu pour remplacer Modric.
Ouais.
Parce que c'est lui qui peut porter le ballon devant parce qu'il est capable de marquer, parce qu'il a du coffre. Et du coup, aussi de ne pas le voir titulaire, c'est pas que ça a été une surprise, mais en tout cas, ça a enlevé des possibilités offensives à l'équipe. Donc finalement, je crois que Modric, c'est mieux de l'avoir un peu en retrait, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai eu un coup de cœur hier, côté croate, et je voulais savoir ce que t'en penses.
Allez, vas-y, avec Cédric, on en profite.
Le latéral croate, Gvardiol.
Et
justement,
oui,
du Dynamo Zagreb.
Gvardiol.
Ouais.
C'est Gvardiol ou Gvardiol, justement?
Alors,
excuse-moi.
Gvardiol. Pas loin de
Pep
Guardiola.
Exactement.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose, mais c'est
pas. Est-ce qu'il n'a pas des origines catalanes?
Alors, Cédric va nous le dire. Allez, Cédric va nous répondre.
Gvardiol, clairement, c'est aujourd'hui le joueur le plus attendu de la sélection, mais le plus attendu en tout cas chez les Croates, parce que ce qu'il est capable de produire, c'est absolument, on peut dire, assez extraordinaire pour son âge. Je sais pas, moi il me fait beaucoup penser justement à ces joueurs. Alors je fais pas la comparaison avec ces joueurs, mais en tout cas dans cette capacité d'être un peu des robots, de jouer à tous les postes, d'être à la fois technique, d'être à la fois puissant, un peu des Barella, des Haaland. C'est vraiment dans, je trouve, dans ce joueur très moderne qu'on retrouve de plus en plus dans les
c'est un monstre physique. Et il avait un sacré client en face. Il avait Kyle Walker qui a totalement été dépassé.
Première sélection en plus.
Première sélection.
C'était même pas prévu qu'il joue titulaire cette compète, parce que d'habitude c'est Barišić qui joue aux Rangers. D'ailleurs, on parlait des Rangers juste avant. Et Gvardiol, c'est un mec qui peut jouer défenseur central, qui peut jouer latéral, qui est bon en centre, qui est technique, qui est puissant. Clairement, je pense que là, il a une place de titulaire pour longtemps. D'autant plus que la sélection manque justement de défenseurs. On va dire très bon, quoi. Donc, oui, mais Gvardiol, c'est le joueur à suivre et peut-être le seul qui ressortira de cet euro. On verra ce que donneront les deux autres matchs.
Je pense que s'il y a des scouts qui regardent cet euro et qui veulent miser sur un espoir qui peut potentiellement devenir une star, eh ben justement, il y a Gvardiol du Dynamo Zagreb.
Bien, puisqu'il part à Leipzig, il va remplacer Upamecano. Il est pareil, il a été transféré dès l'année dernière. Leipzig a fait une offre au Dynamo. Il
okay.
est resté en Croatie tout au long de la saison après. Et là, il remplace. Il devrait avoir un rôle important, j'imagine, à Leipzig en arrivant. Il doit signer, je crois, pour 15 millions d'euros. Donc, il part dès cet été là à Leipzig.
Bah, c'est totalement en adéquation avec la philosophie de recrutement de Leipzig, en fait.
Ouais. Encore en avance.
Cher, hein, 15 millions d'euros de nos jours, c'est pas énorme. Hein.
Il pourra non seulement jouer et devenir encore meilleur tactiquement, quoi, parce que c'est ça qui le fera passer au stade supérieur maintenant.
C'est ça, on l'espère. Le prochain match, justement, des Croates, Cédric ? Oui, ça va le faire.
Ça va le faire, j'en sais rien. Parce que...
Ah, c'est serré ! Ouais.
Bah, oui,
deux ennemis jurés, quoi.
Ah, moi, je vois la Croatie au-dessus. Hein.
Oui, carrément.
Pour tout vous dire, les éliminatoires, les Croates ont galéré contre Chypre. Malgré 70% de possession de balles, ils avaient la peur au ventre et ils se sont fait peur jusqu'au bout. Contre Malte, c'était chaud. Là, ils ont fini contre l'Arménie. Bon, c'était un amical. Mais là, c'est souvent comme ça un peu avec l'équipe Yugo. Mais là, ils sont vraiment dans un mood, on va dire, où il n'y a pas vraiment de la confiance dans les enchaînements de résultats. Mais après, c'est sûr que là, en compète, ils sont capables de produire du jeu. Et j'espère qu'ils vont le faire au moins vendredi, quoi.
Vous qui êtes connaisseur de toute cette actualité du football croate, peut-être c'est la fin d'une génération. C'est Karim qui nous le dit, un auditeur Beurre FM, chez les Croates.
Ben oui, il y a un petit peu de ça. Modric est sans doute sa dernière compète, hein, même s'il ne l'a pas annoncé officiellement. On le sent pas mal venir. Perisic, même s'il est encore très bon, ben à un moment, il faut trouver les remplaçants. Mais bon, derrière, il y a des Brekalo, il y a des Vlahovic. Il y a Ivanouchet devant aussi, qui est assez attendu. Derrière, Machaleta Sarr. On a Pongracic qui joue à Wolfsburg. Il y a Sosa, c'est de notamment avant l'Euro.
Exactement.
Radaric. Enfin, voilà, il y a des solutions derrière. Mais c'est sûr qu'à un moment, Dalic doit aussi dire qu'il faut passer à autre chose. Mais a priori, ce ne sera pas pendant cet Euro.
Je pense qu'il manque un avant-centre, en fait, pour perpétuer un peu la tradition croate.
Ils ont les joueurs.
Mais je crains que là, c'est ce 4-2-3-1 qui limite trop, en fait. Et il était fait pour Mandžukić, ce mec qui était capable d'aller devant, derrière, de faire tout ce qu'il voulait. Mm-hmm. Aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs comme ça devant, même si Petkovic est un bon joueur, très intelligent. On le voit, il est très vite fantomatique. Un Rebic, j'en parle même pas. C'est pas non plus son poste, son meilleur poste. Et Kramaric, ne joue pas, en fait, à pointe.
C'est ça. Il le met à droite, effectivement.
Et en sélection, ça marche pas non plus. Ça avait déjà été testé, Kramaric.
Ouais. Et en fait, ils interviennent.
Ils sont performants depuis 2017, et ça, c'est assez dingue.
Ouais, non, tout à fait.
Cédric, un grand merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci à vous.
On le rappelle, fondateur, membre fondateur de l'actu foot croate, Cédric. Eh oui.
Ah bon, j'attends le prochain d'avoir Shooker. Hein,
bien sûr, bien sûr. On verra.
Le prochain invité.
Allez, même non, d'avoir Shooker. Non,
le prochain d'avoir Shooker.
Cédric, Cédric nous comptera encore toute l'actualité de ce football croate, ça c'est promis. Vous restez avec nous jusqu'à 21h, on est ensemble. On parlera de ce fameux groupe E. À de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et voilà, de retour pour la deuxième heure que l'on entame juste maintenant avec toute l'équipe de ce fameux groupe E. Et oui, le groupe E qui joue ce soir avec, entre autres, l'Espagne face à la Suède. Bon, on va s'attarder au match qui vient juste de terminer avec le fameux Pologne-Slovaquie.
Time Sport.
Pologne-Slovaquie, on rappelle le score de ce match, 2-1 pour les Slovaques dans ce groupe E. On l'écoute, c'est Terence qui est avec nous, avec sans oublier Juan Trossé, aussi Fred et notre consultante Alison.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Ouais.
Bonsoir.
Et c'est cool. On y va, bonsoir. Terence.
Donc on t'écoute. Donc effectivement, une surprise tout de même que la Slovaquie ait réussi à battre la Pologne. Pourquoi une surprise ? Parce que la Pologne s'est qualifiée avec 25 points pour cet Euro, avec quand même un bilan de 8 victoires, 1 nul et 1 défaite, en sortant d'un groupe, si on peut dire, quand même assez simple, mais surtout avec 18 buts marqués et 5 encaissés. C'est quand même une grosse attaque, parce qu'elle termine deuxième meilleure attaque et première défense de sa poule. Pour moi, la Pologne devait disputer la deuxième place avec la Suède, derrière, pour moi, les intouchables espagnols. Surtout, la Pologne est 21e au classement FIFA, donc un classement hyper très intéressant, donc une contre-performance par rapport au match de ce soir, et surtout un buteur au sommet de sa forme, Lewandowski, qui ce soir était transparent. Alors effectivement, il y avait deux autres pièces maîtresses qui habituellement jouent avec lui devant, qui sont blessées, forfait. Et on a vu, il y a un homme qui est passé au travers, pourtant qu'un homme d'expérience, Krychowiak, qui a 31 ans, qui est passé par des gros clubs.
Ouais.
Et là-dessus, deux jaunes, 22e, 62e. Il met son équipe sur le carreau, donc il a une part de responsabilité là-dessus sur le résultat. Parce qu'à 31 ans, avec toute l'expérience et la bouteille qu'il a, il doit pas prendre ce deuxième jaune. Et surtout, c'était un duo qui était intéressant, parce qu'il y avait Mateusz Klich, lui qui progresse énormément sous les ordres de Bielsa à Leeds. Donc ça faisait un milieu de terrain assez intéressant, assez compact. Ils ont aussi, par contre, ce qui est un peu problématique, ils ont deux gardiens de grosse expérience, qu'on prenne Chesney de la Juve ou Fabianski de West Ham. Et derrière, surtout, comme ça joue avec une défense à trois, avec deux cadres qui sont inamovibles, qui sont Camille Glick et Bednarek. Et en fait, tu t'aperçois, ils ont une colonne vertébrale qui tient énormément la route. Ce qui est un peu plus friable, c'est les côtés, avec Ribus, l'ancien joueur qui est passé par l'OL. Et Berezinski, en fait, c'est sur les ailes, ils ont pas de concurrence, donc ils sont un peu dans un fauteuil, et c'est là où est un peu le bas blesse de cette équipe polonaise. Donc tu t'aperçois que les éléments, la colonne vertébrale a fait défaut ce soir, alors que c'était on comptait sur eux. Donc un mauvais résultat, ça commence mal pour la Pologne, surtout que la deuxième journée ils vont jouer l'Espagne.
Donc, c'est ça. Donc assez difficile.
Ça va être compliqué parce que
face aux Espagnols,
ça va être très complexe parce que je vois effectivement l'Espagne gagner.
Ouais.
Ça veut dire que la Pologne
face à la Suède.
La Pologne sortirait directement.
Oui, Terence.
Donc compliqué.
Les Polonais donc déjà en danger. Ça vient juste de tomber. C'est selon certains bookmakers anglais voire espagnols aussi qui donnent déjà l'élimination de ces Polonais parce que face à l'Espagne ça va être assez compliqué. On t'écoute.
Ça va être compliqué. Alors déjà la première des choses c'est qu'effectivement la Pologne a quand même dominé ce match à 57% des possessions de ballon, mais qui a été complètement infructueux parce que tout au long du match, le fait d'avoir le ballon, et l'Espagne le prouve assez souvent, ne veut pas dire qu'on est capable de gagner derrière, surtout ces dernières années. Mais surtout, c'est que Lewandowski, qui est quand même le meilleur buteur, futur ballon d'or, tout ce que tu veux, aujourd'hui a été sobré des ballons. Il n'a pas touché pratiquement un ballon. Ça a été très compliqué pour lui, mais il faut quand même remarquer, c'est l'effort physique qui a été fait par les Slovaques qui ont surpris avec un gros pressing tout au long du match sur les joueurs de polonais, surtout l'attaque slovaque qui n'a pas beaucoup touché des ballons, mais par contre a fait un pressing énorme tout au long du match, et ce qui a beaucoup gêné effectivement cette équipe polonaise. Et comme tu le disais, ça va être très compliqué pour les Polonais. Je ne sais pas s'ils sont ou pas éliminés encore, mais c'est vrai que aujourd'hui l'Espagne a intérêt à faire effectivement un gros match et gagner face à la Suède, parce qu'effectivement le match face à la Pologne, ça va être un match de vie ou de mort pour le Polonais. et voir très rapidement Lewandowski, meilleur joueur, meilleur attaquant européen, dehors de la compétition, ça ferait quand même désordre.
Et puis il est tombé sur un client ce soir avec Skriniar en défense centrale. C'est quand même un sacré client, Skriniar. C'est vrai que la Slovaquie, on part du principe, c'est pas une grosse nation, parce qu'ils sont, ils sont passés par les barrages quand même, pour pouvoir se qualifier.
Ouais.
Mais tu t'aperçois que défensivement, Skriniar tient la baraque, et même si Hamzik ce soir était transparent, il a quand même joué un rôle assez important, sur, parce que c'est quelqu'un d'influence. Mais ils ont surtout deux joueurs qui sont Duda et Kuka. Duda qui a encore été
il a été encore énorme.
Oui, Alisson et Fred, on vous écoute.
Cette entrée en matière, elle est assez surprenante. Hein. On attendait beaucoup plus de la Pologne, et Terence et Rondrossé.
Il y a des surprises, pour ce début d'Euro.
Oui. De la première surprise, parce qu'on attendait énormément, en tout cas, d'un joueur comme Lewandowski, qui a énormément déçu aujourd'hui. Mais le bilan comptable, déjà, alors que c'est que le premier match, on peut commencer à se poser des questions, parce que quand on perd ce match-là contre, a priori, un adversaire qui est à sa portée, et ensuite, derrière, qu'on enchaîne l'Espagne, favori du groupe, et ensuite, on aura aussi les Suédois qui sont pas mal du tout, ça peut être déjà compliqué.
Non, clairement que dans cet Euro, tu perds ton premier match, tu as déjà un pied dehors, ça c'est évident, et surtout quand tu joues les équipes les moins favoris, c'est sûr que là, dans ce match Pologne-Slovaquie, l'équipe qui perdait se mettait quand même une balle dans la jambe. Et c'est vrai que la Pologne partait favorite à des joueurs intrinsèquement peut-être qui jouent à un meilleur niveau que les joueurs slovaques. On a vu Zielinski qui a fait une très bonne saison avec le Napoli, que j'ai quand même trouvé très bon ce soir et qui a été un des seuls qui a été au statut de la Pologne. La Slovaquie avait un plan de jeu beaucoup plus visible. Ils allaient plus presser haut, ils dédoublaient sur les côtés. On a vu un très beau but et une erreur de Chesney. Toi, t'as, comme tu l'as dit, Terence, tu as parlé d'une concurrence Chesney-Fabianski. C'est vrai que Fabianski a fait une très bonne saison et les deux ont été habitués à être en concurrence déjà à Arsenal.
Mais ce qui est quand même à signaler, ouais, c'est qu'effectivement, tu as fait référence au premier but de la Slovaquie, mais qui a été quand même un exploit personnel.
Oui.
Parce que personne ne s'attendait à qu'il y ait un but derrière ce qu'il a réalisé. Mais, et puis le deuxième but, c'est à la sortie d'un corner en plus. Où l'erreur défensive des Polonais fait qu'effectivement il y a le deuxième but qui arrive. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est le rôle de l'entraîneur de la Pologne, du portugais et Paulo Sousa. Pour les Français, il se rappelle de lui puisqu'il est passé par Bordeaux. Ça, mais ouais. Comment tout au long de ces 90 minutes, il n'a pas réussi à casser le candidat qui avait été mis en place par les Slovaques. Moi, je me disais à un moment donné, physiquement, ils ne vont pas tenir le rythme. Ils l'ont tenu jusqu'à la fin, mais je pense que les Polonais, aujourd'hui, les ont quand même beaucoup aidés par leur inefficacité tout au long de ce match.
Par rapport au coach, excuse-moi, Lisson, en fait, il y a un gros débat en Pologne. Ils ont mis Paulo Sousa. Ils ont viré l'ancien entraîneur, pourtant qu'il y avait des résultats qui les a qualifiés, parce qu'apparemment, Lewandowski ne s'entendait pas avec. Donc, il aurait mis la pression au président de la Fédé. Et ce serait Lewandowski qui aurait eu la tête de l'ancien coach. Et si tu t'aperçois, sur les 4 derniers matchs de Paulo Sousa, il est sur un nul, une victoire, 2 nuls et une défaite. Plus là ce soir, un début d'Euro avec une défaite. Et surtout, il n'y a pas de plan de jeu. Donc c'est vrai qu'en Pologne, les habitants et la population sont assez inquiets du plan de jeu qui est présenté et qui est donné par Paulo Sousa. Et surtout, il maîtrise pas son sujet actuellement.
Totalement, parce que
ouais. Alors, Alisson,
l'égalisation de la Pologne, c'est une égalisation quasiment surprise, même si certes cette équipe polonaise a dominé, mais quand même on voit que le deuxième but arrive et c'est on leur a coupé l'herbe sous le pied. On avait l'impression qu'ils ne pourraient pas faire plus que ce qu'ils ont déjà rendu sur le terrain tout à l'heure.
Alors on poursuit encore avec peut-être Terence concernant Pologne-Slovaquie. On va directement plonger. Oui.
Juste rappeler que de toute façon,
c'est un peu le sélectionneur de ce groupe.
C'est ça.
Ouais,
on parle de la Pologne, mais c'est que la troisième fois qu'il joue l'Euro. Hein. Pologne, il a joué les trois derniers, les trois derniers Euros, mais c'est que la troisième fois qu'il joue.
Comme dans le groupe D, ça fait 25 ans que l'Écosse n'était plus dans l'Euro.
Donc, mais c'est vrai que ayant Lewandowski dans son effectif et quand même des joueurs d'expérience,
c'est ça.
On pouvait attendre beaucoup plus de cette équipe. équipe, ça n'empêche qu'aujourd'hui, la Pologne nous a peut-être dessus. Peut-être que l'Espagne pourra, dont on va parler, pourra peut-être nous décevoir tout à l'heure, on ne sait rien. Mais en tout état de cause, c'est vrai que le match de samedi prochain entre l'Espagne et la Pologne, comme j'ai dit, c'est de vie et de mort, que ça soit pour la Pologne, que ça soit pour les deux sélections qui ont quand même beaucoup, beaucoup approuvé lors de ce Euro. Bah, déjà, la Pologne, parce que ça s'est mal passé aujourd'hui, mais ils étaient quand même arrivés en quart de finale en France, hein, en 2016. Ils étaient quand même arrivés en quart de finale. Et pour l'Espagne, qu'en 2016, effectivement, on s'est planté complètement.
Une catastrophe.
Avec cette catastrophe, élimination, et ouais. jeu merdique. Excusez-moi cette expression, mais c'était la réalité.
Ça va, quand même.
Avait fait, donc, l'Espagne a quand même beaucoup, beaucoup approuvé aussi.
Auparavant,
aujourd'hui.
Ils étaient au plus haut du monde, voire de l'Europe aussi, l'Espagnien.
Ouais, ils sont descendus très bas aussi.
Oui,
ça fait depuis 2012.
Alors.
Ils ont plus gagné un match à élimination directe.
Ouais. On va s'attarder sur les Espagnols face aux Suédois ce soir.
Time Time Sport. Le duel.
Assez intéressant. Nos confrères de d'Eurosport disaient justement à quoi peut bien prétendre cette Roja à la préparation surréaliste justement et aussi à cette phase finale, on le rappelle, l'Euro 2020 hein, qui se joue en 2021. Oui, Juan Trossé, excuse-moi. Vas-y, Juan Trossé.
Oui, effectivement, tu parlais de l'Espagne et de ce match d'aujourd'hui, qui est un match important avec deux sélections qui se connaissent assez bien. Quoique, il y a quand même des chiffres assez intéressants. Je crois que c'est la cinquième fois qu'ils vont se rencontrer dans une grande compétition, en phase finale, que ça soit le mondial ou l'euro, sachant que la première fois c'était déjà en 1950 quand l'Espagne jouait à l'époque la coupe du monde, et souvent c'est l'Espagne qui remporte ces matchs. D'ailleurs, en tout il doit y avoir sur ces 15 dernières années 12 ou 13 confrontations, et sauf une fois l'Espagne a toujours battu les Suédois et les Espagnols, qui étaient ensemble lors de la phase de qualification pour l'Euro 2020. Ils étaient
ensemble.
Donc à nouveau donc c'est deux sélections qui se connaissent bien, et il y a jamais eu ces dernières confrontations des gros écarts entre les deux au niveau des buts. L'Espagne a réussi à gagner, mais c'est assez compliqué de passer avec une équipe espagnole, rappelons-le, que cette année est complètement, pratiquement nouvelle. Il faut juste reconnaître qu'elle est assez jeune, moyenne d'âge autour de 26 ans.
C'est ça.
Avec sur les 24 joueurs espagnols, il n'y en a que 7, je pense, j'ai vu tout à l'heure, 7 ou 8 qui ont de l'expérience en compétition internationale, que ce soit une Coupe du Monde ou un Euro. Donc une équipe inexpérimentée dans les grosses compétitions internationales pour l'Espagne. Une équipe jeune, une équipe qui n'a pas encore des automatismes, ça c'est une réalité, parce que on a vu les derniers matchs de cette sélection et ils sont pas bons. Le jeu n'est pas convaincant. On a voulu, nous les Espagnols, croire que après le 6-0 face à l'Allemagne, ça y est, on avait retrouvé la grande Espagne, mais les matchs qui ont suivi n'ont pas du tout démontré ce qu'on avait vu sur les terrains face à l'Allemagne. Et donc une équipe d'Espagne qui doit aujourd'hui quand même, face à la Suède, prouver qu'elle est sa valeur et pourquoi elle est parmi les aspirants à gagner cet Euro, même si ce n'est pas du tout parmi les 3-4 grandes nations dont on attend être vainqueur à la fin de la compétition.
Justement, la Suède, c'est seulement la cinquième participation
avec toi, Alison,
dans cette compétition. Juan José l'a dit, pendant les phases de poule, pour la qualification justement à cet Euro 2021, la Suède a fini deuxième derrière l'Espagne. Donc, les Suédois ont décroché sans trop de mal non plus leur qualification, avec une seule défaite justement face à l'Espagne. Il y a quand même quelques points noirs dans cette équipe suédoise. Elle a connu quelques revers, notamment en Ligue des Nations, contre la France, le Portugal et la Croatie. Il y a aussi des absents notables, avec en tête Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. On a Kluczewski, joueur de la Juve, et Svanberg aussi, qui sont atteints du Covid-19. Mais il y a aussi des points forts et des très, très gros points forts. C'est une équipe qui reste sur 5 matchs sans défaite. C'est une équipe aussi qui est cohérente sur toutes les lignes. Sporting. On voit notamment en défense centrale Victor Lindelof, qui est le défenseur de Manchester United, un défenseur rugueux, un défenseur qui est aussi solide. Au milieu de terrain, on a Emil Fussberg, qui est le milieu de terrain de Leipzig, créateur et très très technique, c'est le fer de lance de cette équipe suédoise. Et en attaque, on retrouve un trio très 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 prolifique avec Isaac, Berg et Fosberg. On a le petit Isaac qui a 21 ans, qui joue en Espagne à la Real Sociedad et qui a déjà marqué 17 buts et qui est dans le viseur du Barça. Donc voilà, ce trio d'attaque, on sait qu'il peut faire mal à cette équipe espagnol qui a notamment des problèmes défensifs.
On va revenir de suite avec Alison, notre consultante, mais aussi tous les autres consultants, la personne de Fred, de Terence, sans oublier Juan Trossé, de ce fameux groupe E, spécial Tamfoot Euro 2020. Oui, 19h, 21h, on est ensemble. On parlera aussi, allez, un petit mot concernant cette Copa América et aussi du fameux sacre de Djoko. Ça a fait plaisir à nombre de personnes, voir. Faut en parler aussi des internationaux de France. Malheureusement, Nadal l'a pas le remporté, Juan Trossé. Bon, on pense à lui. À de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, pas que Bilal, il y a aussi Alisson, notre consultant Terence, je le rappelle, Fred, Juan Trossé. Eh oui, Juan Trossé, c'est le manager, matador de ce fameux groupe E.
C'est le coach, c'est ça, Juan Trossé.
L'Euro 2020 jusqu'à 21h, on est ensemble tout au long de ce mois jusqu'au 11 juillet avec une soirée exceptionnelle, le soir de la finale, on l'espère, pourquoi pas la France face à la Suède ou même l'Espagne, va savoir Juan Trossé. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, on va prendre le chemin, on va aller loin, allez dans la région Am Sud.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Ouais, on va revenir après du côté de la Porte d'Auteuil, c'est promis avec les internationaux de France. Mais Brésil ou face au Venezuela, 3-0, ça promet la Copa América de ce groupe A. Première journée, Fred.
La Seleção entame plus que bien cette Copa América.
Et Marcinho penalty, hein. Et Marquinhos aussi.
Avec une victoire 3-0, on peut retrouver nos deux Parisiens, Marquinhos et Neymar, à l'ouverture du score pour Marquinhos. Neymar a inscrit un penalty pour le deuxième but de la rencontre. Et Gabriel Jesus a mis le troisième sur une passe décisive de Neymar. Le Brésil est premier de sa poule de Copa América et commence fort cette compétition.
Ouais, dans ce groupe A, justement, avec toi, Terence.
C'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit que Neymar se met enfin au niveau. Il augmente son niveau de jeu.
Ouais.
Non, mais il était éteint.
Il était au niveau avec le Paris Saint-Germain. Mais non, c'est pour ça que ça m'a fait rire.
Bien sûr.
Oh, quand c'est même. Vrai, Neymar est toujours là. Il est présent. Ouais.
Après, faut relativiser. Ça restait le Venezuela. C'était pas non plus un match rugueux contre l'Argentine ou ainsi de suite. Mais au moins, il y a pas mal de complicité. On s'aperçoit que Paqueta se fond dans le groupe. Il y a pas mal. Marquinhos monte vraiment en puissance. Moi, j'étais un peu sceptique sur ce joueur au départ de sa carrière. Et en fait, il devient réellement monstrueux, il prend une place qui est prédominante sur son poste de défenseur central et même en 6, c'est un phénomène. Et donc l'équipe du Brésil commence à être un rouleau compresseur. Bon, ma seule interrogation, c'est les latéraux, parce que depuis un certain temps, c'est vrai que c'est devenu un peu plus compliqué. Et c'est quand tu t'aperçois que c'est Danilo qui obtient le penalty, tu relativises un petit peu. Donc derrière, sur Daniel Alves, T'as pas spécialement de grosses relèves qui est mise en place là-dessus.
Ouais.
Que c'est pas la plus grosse génération du Brésil et les joueurs qui arrivent, c'est pas les joueurs qu'on a connus auparavant. Le Brésil n'est plus l'usine à foot qu'elle était auparavant.
Ah ouais, c'est autre chose aujourd'hui.
C'est ça. Bien sûr, tu verrais pas un milieu de terrain, même si j'ai beaucoup de respect pour des joueurs comme Fred ou comme Paqueta qui a fait une très bonne saison, des joueurs comme Gabriel Jesus. Enfin, la génération du Brésil, c'est plus le réservoir que c'était auparavant. Et comme tu l'as dit, ils avaient des latéraux formidables, que ce soit Roberto Carlos, que ce soit Danilo, que ce soit Carlos Alberto encore un peu plus longtemps. Et c'est vrai que Danilo, nous, on n'a pas l'étoffe de ces joueurs.
On attend surtout de nouveau le Brésil.
Qu'il parle des Socrates,
c'est ça. Ouais, on attend surtout le Brésil de nouveau présent sur une compétition, hein, parce que ces dernières années, ça s'écroule quand ils arrivent en compétition internationale. Donc voilà, ça brille pour l'instant, ça se solidifie, mais moi, je les attends en compétition sur une Coupe du Monde l'année prochaine, voir ce qu'un Neymar apporte et est-ce que c'est vraiment le patron définitivement de cette équipe brésilienne.
Ah oui, c'est vrai. Sur les grosses, ouais, sur les grosses affiches, on l'attend, parce que là, c'est ce que je te dis, on relativise, ça reste le Venezuela. Dès que tu commences à, dès qu'ils commencent à rencontrer des joueurs,
ça va sur les deux groupes. On a le groupe A avec le Brésil, Colombie, Pérou, Équateur, Venezuela. Ça reste.
Oui, mais tu vois, mais tu vas voir que l'Équateur a un football rugueux. Donc ils vont pas ça reste un football rugueux. Ils vont le tamponner. Et tu prends la Colombie après la Colombie. Si on extrapole un peu, il y a une problématique diplomatique. T'as James Rodriguez, Rodriguez qui a pas été retenu. Le sujet principal apparemment c'est un problème médical. Et lui il a dit non, en fait il se fout juste de moi. C'est qu'en fait le sélectionneur croit pas en moi, il veut pas me faire jouer. Mais au niveau médical je suis à 100%. Et donc ça va commencer à être une problématique parce que c'était quand même une pièce maîtresse et un cadre de cette équipe.
Bien sûr.
Donc ça devient un début de compétition qui je pense qui va être compliqué pour la Colombie.
Fraise, il a pas tort, Terence. Hein. Je sais pas ce qu'en pense aussi à Alisson. Dans le groupe B, on peut voir aussi l'Argentine, la Biélorussie, la Bolivie, Chili, Paraguay, Uruguay. C'est pas le même groupe que celui du A.
C'est pas le même groupe. Et en plus, on attend éternellement et continuellement et depuis longtemps l'Argentine de Lionel Messi. Ça patauge encore une fois pour l'instant. Ça nous offre pas le jeu qu'on espère et qu'on attend encore une fois de cette Argentine de Lionel Messi. Je précise et j'insiste. Donc voilà, c'est pas la même chose et c'est pas le même groupe.
C'est ça, sixième contre la Copa América. C'est ça.
Tout de même.
Pour Messi quand même.
Donc, belle carrière, mais Lionel Messi.
Oui, mais on attend qu'il confirme.
Oui, c'est vrai, avec l'Argentine.
C'est ça.
Peut-être.
Ça va arriver. Est-ce qu'il lui manque ? C'est ça.
Le Qatar arrive.
Il y a l'histoire, effectivement, de James Rodriguez avec la Colombie, le cas du Venezuela, qui est une équipe pleine de Covid. Il a fallu rappeler une quinzaine de joueurs parce que tout le monde était contaminé. C'est quand même une Copa América assez compliquée. On a beaucoup critiqué ce qui se passe en Europe avec 11 stades dans une dizaine de villes partout avec l'histoire du Covid, mais quand on voit ce qui se passe en Copa América dans un pays comme le Brésil où on entasse les dizaines de milliers de morts, où la pandémie n'est pas contrôlée et où effectivement un continent qui est quand même assez beaucoup plus touché que l'Europe, on pourrait se poser beaucoup de questions sur la CONCACAF et le football qui est proposé là-bas.
Après, tu t'aperçois que le groupe B est quand même un groupe beaucoup, beaucoup plus compliqué que le groupe A. Parce que tu prends quand même le Venezuela, la Bolivie et le Chili sont des équipes joueuses quand même. Ça joue. Et l'Argentine n'a pas de jeu. Tu regardes les derniers matchs, tu vois sur les réseaux sociaux, Paredes, il a fait un exploit. Super, il a fait quoi? Il a fait deux jongles contre les...
Ah ben c'est pas mal, le jeu.
Il a fait deux jongles et un plat du pied gauche contre une équipe de... Non, on va s'arrêter là, mais...
Ah, là, c'est difficile.
Mais c'est...
Moi, tu es difficile.
Non, mais faut relativiser.
Avec le Parisien, tu es difficile. Hein.
Tu prends en fait les deux grandes stars de ces deux équipes, que tu prennes Messi et Neymar, dans les grosses compètes, on les voit pas. Tu les vois pas.
Ah ouais.
Alors qu'avant, tu prends sur les anciennes générations, tu prenais les Ronaldo, Romario, sur les anciennes générations.
Ils étaient là. Présents.
Les Ronaldinho, les mecs, ils étaient là. Après. À l'époque, même, t'avais Ortega.
D'accord avec Terence.
Ça jouait.
Composer le numéro du standard, le 0153483000. On a parlé de l'Espagne face à la Suède, c'est promis, on va revenir rapidement. Oui, Fred, on te laisse la parole. Concernant la Copa América, avant de revenir en France pour les internationaux.
Non, pour finir sur la Copa, c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais, Alisson. Pour moi, le Brésil, depuis 2014, doit redorer son blason. Et ils l'ont toujours pas fait, et c'est le moment, parce que le Brésil, c'est un peu la terre du foot pour beaucoup. Pour revenir sur Messi, il n'a pas forcément une équipe qui peut lui permettre d'atteindre ses ambitions. Et pour revenir sur le continent sud-américain, c'est vrai que les équipes sud-américaines n'ont plus la qualité qu'elles pouvaient avoir il y a quelques années encore, que ce soit le Chili qui avait une très belle génération, que ce soit les autres pays, même la Colombie qui avait aussi une très belle génération avec Falcao, James et tout ce qui s'ensuit. Là, le football américain est un peu en crise, on peut le dire.
Alors on va passer à Roland Garros.
Time Sport.
Eh oui, Alisson, Novak Djokovic, qui remporte ce fameux trophée du Grand Chelem, excusez-moi, j'allais dire prix de Formule 1, mais non pas encore,
pas encore.
Ouais, parce que
il n'a pas encore changé.
Ouais, mais il a la nationalité monégasque, ouais, c'est pour ça. Ça m'a fait penser à ça. Vraiment.
C'est juste un
enfin,
côté fiscal.
Ouais. Oh, on va pas parler. Mais non,
commencer.
Tu nous fais du Yacine là. Il t'arrive quoi, Terence?
C'est ça, Novak Djokovic. Alors, qui remporte ce tournoi du Grand Chelem dans la difficulté quand même. Hein. On l'a vu qu'il était très, très, très en difficulté, que ce soit physiquement ou que ce soit dans le jeu, dans les deux premiers sets contre Tsitsipas. Même si son pourcentage de première balle était correct, très correct, je pense que c'était plus de 90% dans les deux premiers sets, mais ça le faisait pas. On sentait que physiquement, en tout cas, il avait laissé des plumes face à Rafael Nadal, justement. Mais on connaît Novak Djokovic, on connaît son mental d'acier, son mental serbe, et de toute façon, les grands chelems, il est toujours présent, et il l'a démontré encore que Roland Garros, il le voulait, et il l'a eu.
C'était une très 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 belle finale, et c'est vrai que Tsitsipas gagnait 2-7-0, comme face à Zverev. Au final, face à Zverev, ils sont allés jusqu'à 5-7, mais face à Zverev, il a gagné. Là, c'est pas passé. Face à Nadal, c'est vrai que Novak a donné beaucoup, mais Tsitsipas a donné encore plus face à Zverev. Sur le fond, parce qu'ils ont quand même 12 ans d'écart, Tsitsipas est né en 98, il est censé avoir plus de coffres, on va dire, que Novak. Mais pas du tout, sur le fond, c'est Novak qui a pris le dessus physiquement, et tu as raison de le rappeler. Tsitsipas a sombré petit à petit psychologiquement, et jusqu'au moment où il s'est dit, en fait, là, moi, je me retrouve à 2-7, 2-7, et sur le dernier set, Novak ne pouvait que gagner après avoir battu Nadal en demi-finale. Tsitsipas est jeune, on a vu le public de Roland-Garros qui était à fond derrière lui, qui l'applaudissait à fond, qui était même, je dirais, très dur avec Novak. On sait que voilà, Novak, c'est une certaine personnalité, les codes du tennis sont pas les mêmes qu'au football. Une personnalité comme Novak au football serait adorée, c'est pas forcément le cas au tennis. Mais moi, il m'a impressionné, Novak Djokovic, et il mérite qu'on le place dans le panthéon des meilleurs tennisman.
Il impressionne, ça. Alors, c'est vrai qu'il va battre certainement tous les records, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est parti pour. Il gagne parce qu'il a de l'expérience, et Tsitsipas n'en a pas. Et là, on le voit effectivement lors du troisième set, et notamment, enfin, et après le quatrième. Et surtout, c'est le côté psychologique. Je suis tout à fait d'accord. C'est le côté psychologique qui l'a fait tenir face à Nadal en demi-finale. Mais c'est pour ça aussi qu'un Nadal, qu'un Federer ou qu'un Djokovic sont numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial. Mais parce qu'il y a, hormis l'expérience, hormis l'endurance physique, il y a ce côté psychologique. Ils savent qu'un match n'est pas fini jusqu'au dernier point. Et au tennis, c'est encore plus vrai que parfois au football. Mais en tout état de cause, il va être l'un des plus grands ou le plus grand. Ouais. Mais tu as parlé du public. Ce n'est pas parce qu'on a gagné le plus grand nombre de grands chelems qu'on est le plus aimé du public. Après, il faut quand même une certaine empathie avec le public. Empathie qui a Federer, qui a Nadal, et qui manque peut-être à Novak Djokovic, ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, même si on aime ce qu'il fait, on n'aime pas tellement la personne. On aime le joueur et ce qu'il fait, mais ce n'est pas la personne qu'on préfère. C'est la personnalité qu'on préfère.
Pourtant,
c'est vrai que Novak, il a gagné le record du seul tennisman qui a gagné deux fois tous les grands chelems. Et c'est vrai que sur certains coups, sur certains amortis, ou c'est sûr que n'importe quel autre, que ce soit Tsitsipas ou un autre, aurait été applaudi par le public, Novak n'a pas reçu ses applaudissements, et pourtant il a fait ce qu'on appelle presque un exploit. Et sur ça, j'ai trouvé que le public de Roland a été un peu dur quand même sur ce coup.
Mais il se sert de ça, justement, c'est une force pour lui. Tu t'aperçois, et t'as beaucoup de sportifs, mais ça tu le vois avec l'expérience, avec l'âge. Quand t'as derrière, t'as un public pas qui est haineux, mais qui est contre toi, tu te sers de ça. Et je pense que Tsitsipas, ça lui aussi monte à la tête. Il s'est dit derrière, il a peu d'expérience, il a 22 ans, il commence aussi sur le circuit à commencer à avoir des résultats.
Et top 5. Hein.
Oui, mais à 22 ans. Donc derrière, pour l'instant, il est adulé. Mais le jour, par contre, où ça va sur un schéma inverse, ça va lui faire bizarre. Le jour où il va se faire siffler comme Djoko. Mais Djoko, il s'en fout. Djoko, justement, plus tu vas l'insulter, et plus il va monter en puissance. Et c'est son caractère qui a été comme ça. Tu l'as vu parmi les grands joueurs,
que ce soit Nadal au début de sa carrière à Paris, il était sifflé très souvent. Et c'est le cas de Djokovic. Il y a juste Federer qu'on n'a pratiquement jamais sifflé.
C'est vrai.
Mais sinon, pour tous les autres, ils ont été beaucoup sifflés. Mais peut-être pour terminer, signaler quand même que les déclarations en conférence de presse des Tsitsipas laissent entendre que rentrer à la fin du deuxième set dans le vestiaire et ressortir 5 minutes après complètement changé. C'est ce qu'il a insinué. Et quand même, dommage. Et là, on voit aussi le manque d'expérience de Tsitsipas qui se permet en conférence de presse de laisser planer des accusations comme ça sur Djokovic. C'est quand même un manque de classe, manque d'expérience, manque de maturité, manque de beaucoup de choses.
Après, rapidement pour l'excuser, on a appris qu'il venait d'apprendre qu'il perdait sa grand-mère et peut-être que ce contexte un peu émotionnel a. Peut permettre d'excuser les propos qu'il a tenus qui étaient complètement subjectifs et indécents.
À moins de 25 minutes de ce match, et oui, en opposant l'Espagne face à la Suède de ce fameux groupe E, les compositions. Allez, avec nos deux consultants, Juan Trossé ou encore Alisson. Alisson, pour la Suède,
alors,
par exemple.
Pour la Suède, on aura dans les buts Olsen en défense, on aura Lüttig, Lindelof. On aura aussi Augustinsson, excusez-moi si je ne prononce pas très bien.
Il va falloir améliorer son suédois.
Oui, non mais j'y travaille. je vais souvent à Ikea, j'y travaille. Ensuite, au milieu de terrain, on aura Larsson, Fosberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Olsson, et en attaque, il y aura Berg et Isaac.
Alors pour la composition de la Roja, composition plus que expérimentale, Dans les cages, le portier, on aura Unai Simón, le gardien de l'Athletic Club Bilbao. Latéral droit, Marcos Llorente. Il a dépanné à ce poste à l'Atlético Madrid. On sait que c'est un des meilleurs milieux de terrain, mais il jouera piston droit. Laporte, Pau Torres, en charnière centrale, plus qu'expérimental, car ils n'ont jamais joué ensemble. Laporte qui va honorer sa première sélection avec la Roja, et Pau Torres qui a gagné l'Europa League, je le rappelle, avec Villarreal, et qui a fait une très bonne saison. Jordi Alba, latéral gauche, c'est vrai qu'avec Luis Enrique et Jordi Alba, c'est un peu une relation conflictuelle et Jordi Alba n'était même plus sélectionné avec Luis Enrique. Aujourd'hui, il est titulaire. C'était une des interrogations pour savoir qui allait démarrer titulaire entre lui et José Gaya. C'est Alba qui commence titulaire. Milieu à 3, Rodri en sentinelle, en 6, Rodri de Manchester City. Koke, le joueur peut-être le plus expérimenté de cette composition, jouera relayeur, accompagné de Pedri, la jeune promesse de Barcelone. Morata, numéro 9. Daniel Olmo, ailier gauche, et Ferran Torres, ailier droit.
Oui. Vous restez avec nous, chers auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement. Une courte pause, la dernière. Et oui, on vous a posé le décor dans ce match, 21h, dans cette phase finale de l'Euro, Espagne-Suède. À de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, on est tous ensemble avec Alisson, je le rappelle, Fred, Juan Trossé et aussi Terence, tous les membres de ce fameux groupe E. Et la spéciale Time Sport, justement, c'est Time Foot jusqu'au 11 juillet, le soir de cette fameuse finale. On verra bien si l'équipe de France le remportera, cette phase finale de l'Euro 2020, ou peut-être une autre nation. En tout cas, on est là tout au long de vos soirées, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On parle de ce match entre l'Espagne et la Suède avec vous.
Time Sport, les prolongations.
Ça promet le match de ce soir.
Oui, ça promet.
On a donné les on n'a pas donné. On n'a pas donné les pronostics. On a donné les compositions avec Alisson et aussi Fred. Justement, il va falloir en parler là aussi.
Ouais,
et oui, les forces en présence. Les donations.
Faut rassurer Juan José parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je le sens.
Je crois qu'il a l'impression.
Ouais, je le sens fébrile.
Ça va le faire.
Je le sens fébrile quand il a vu
Alisson aussi. Il croit.
Je l'ai senti un peu fébrile. Non, après ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que la Suède joue très souvent avec un bloc bas et tu t'aperçois que l'Espagne n'a plus n'a plus cette fluidité dans les petits espaces qu'il pouvait avoir à l'époque quand tu avais des Iniesta, Xavi, Busquets. Toute cette génération n'existe plus et le jeu
intérieur.
Ouais, tu ne l'as plus et tu t'aperçois effectivement t'as deux mobilettes sur les ailes, mais Morata est pas un joueur de tête. Et avant t'avais devant ça à 2000 quand t'avais David Villa, t'avais Torres, t'avais des joueurs. Là maintenant tu t'aperçois que Morata, parfois de temps en temps il fait banquette à la Juve, il réussit pas à s'imposer sur un peu dans pas mal de clubs. C'est vrai que ça va être compliqué, comme disait Juan José, t'as sept joueurs qui ont de l'expérience. Pour moi le maillon essentiel, ça va être Rodri aujourd'hui.
Moi, il y a deux choses. C'est que sur la Suède, la première des choses, c'est que déjà, c'est effectivement, c'est une équipe qui encaisse peu de buts, mais je regardais et en face de qualification, elle a encaissé 9 buts. Mmh. Et les 9 buts, c'était à l'intérieur de la surface de réparation. Les 9 buts. Et on sait les problèmes qu'a l'Espagne pour rentrer sur la surface. Donc ça, c'est quand même un problème pour l'équipe espagnole. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va jouer effectivement avec trois attaquants et notamment avec Alvaro Morata qui est peut-être le seul vraiment à l'intérieur de la surface de profiter des occasions qui vont se présenter. Et puis cette équipe de Suède qui n'est pas mirifique mais qui est quand même assez solide compte parmi ses titulaires aujourd'hui au moins deux joueurs, c'est Augustinsson et Lindelof qui ont été champions d'Europe des moins de 21 ans en 2015. Donc c'est quand même des joueurs qui ont une solide expérience aussi derrière eux. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? Je suis tout à fait d'accord avec Fred, une espèce d'équipe espagnole expérimentale avec une moyenne d'âge donc je disais autour de 26 ans avec Ampedri qui en a 18 ans et qui va être titulaire aujourd'hui et tout simplement trois joueurs d'expérience sur le terrain, côté espagnol, Alba, Coque et Morata. Ils sont les seuls à avoir joué aux Coupes d'Europe, Euro ou Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une équipe expérimentale où il manque quand même des automatismes. Mmh. On a vu ce qui s'est passé face au Portugal au terrain de l'Atlético de Madrid il y a à peine une dizaine de jours, où était soporifique ce match.
Ouais, j'ai même fait
aucune
la sieste.
Des deux nations.
Les deux côtés, ouais.
Des deux côtés ont su trouver une solution. Ça a été un 0-0 horrible. Donc, ce qui m'inquiète, c'est le manque d'efficacité des Espagnols. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est le manque de créativité qu'ils ont montré ces derniers matchs.
Carrément.
Oui, manque de création, c'est la réalité.
Totalement.
Parce qu'ils ont le ballon, 80% des possessions. Face au Portugal, c'était pratiquement 80% des possessions au milieu du terrain.
Et Juan José,
à droite,
tu l'as
à gauche, dit. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça sert à rien, c'est pas du football.
Manque de créativité, on attend d'un jeune joueur comme Pedri, qui pour l'instant a encore énormément de mal dans son club au Barça. On attend cette créativité de lui, sauf que Pedri, déjà niveau volume de jeu, je trouve encore très limité. Alors certes, c'est dû à son âge, mais je le trouve très limité. C'est pas un joueur vraiment qui porte le ballon. On attend de Pedri que ce soit un Iniesta déjà fait et prêt. Sauf que il lui faut du temps. Et donc pour une compétition européenne comme ça, où on a une Espagne qui a encore du mal, où on a une Espagne qui est encore en reconstruction, je trouve que le costume est un peu trop grand pour ses épaules.
Et t'as surtout t'as peu de volume de jeu parce que les Suédois ont un jeu physique. Et tu t'aperçois que Pedri va exploser physiquement. Ils vont le faire sauter à la corde. Et devant, t'as Morata qui a un peu d'expérience. Mais les deux autres joueurs sont effectivement des joueurs de qualité.
Ouais.
Mais avec peu d'expérience. Et quand t'as un Lindelof ou t'as des vieux roublards, ils vont leur faire péter un plomb. C'est l'expérience qui va prendre le relais. Et t'as une défense centrale, Laporte et
Pau Torres
qui est expérimental. Laporte, c'est quoi son
premier match officiel.
Deuxième match contre le Portugal. Tu peux pas avoir une charnière centrale qui a pas d'expérience. Tu pars au feu avec une équipe comme ça.
Et justement, c'est ce qui va leur faire défaut, je pense, à l'Espagne ce soir. C'est que du côté suédois, l'attaque va vite. L'attaque est technique. C'est une équipe aussi qui se projette très bien en contre. Et donc, quand en face, on a une défense, surtout deux défenseurs centraux qui n'ont pas d'automatisme, ça veut dire que dans les placements, pour la couverture, pour le double ciseau, ça sera vraiment très, très, très compliqué pour cette équipe espagnole.
Alors, en tout cas, on a Fala qui te boude, Alisson. Hein. Voilà, c'est la petite déclaration là de
Pourquoi
ce soir.
Parce que c'est pas écrit mon prénom.
Ah ben non, je sais pas. Je sais pas, Alisson.
En suédois.
Suédois, oui. Alors, vas-y Fred.
Non, c'est vrai que vous avez bien taillé les choses et c'est vrai qu'en fait dans ce match, il est facile à lire ce match. Que ce soit sur le terrain, on aura deux idéologies qui s'opposent. Un jeu en possession qui a fait la grandeur de l'Espagne dans les années 2010 et une équipe cohérente comme la Suède qui joue en 4-4-2, qui joue en bloc bas et donc on l'a vu que ce soit la Suisse, que ce soit la Grèce, que ce soit la Géorgie, que ce soit même le Portugal, l'Espagne face à ce bloc bas a du mal. La Suède maîtrise parfaitement bien ce style de jeu et on l'a bien vu sur les 5 derniers matchs. Il y a 4 matchs où ils font clean sheet, où ils prennent aucun but. Donc il y aura très peu d'espace pour l'Espagne, il y aura très peu d'occasions. Juan José, tu l'as si bien dit, il manque tellement de leaders dans cette équipe. Et quand tu vois Alba ou Morata que tu as cité comme leader, pour moi c'est même pas des leaders psychologiquement, ils sont pas là. Le seul vrai leader dans cette équipe pour moi c'est Coque. Et l'Espagne est habituée, je pense, à des débuts de compétition viciés, que ce soit en 2016 avec... En 2018 déjà, quand ils ont viré Julen Lopetegui à 48 heures du premier match, car il avait annoncé qu'il signait au Real Madrid. En 2016, quand De Rey était accusé d'agression sexuelle. En 2014, l'Espagne est habituée à mal commencer ses débuts de compétition. Et encore une fois, il le montre. Je pense qu'en Espagne, que ce soit Rubiales, que ce soit Tebas, il faut tout renouveler. L'Espagne arbore cette compétition pas pour la gagner, mais pour se préparer à la Coupe du Monde. C'est totalement évident, avec une génération plus que expérimentée.
Oui, tout comme les Italiens aussi.
Ouais.
Oui, mais bon.
Sauf que s'ils allaient commencer en gagnant 3-0.
3-0, ouais, déjà. Ouais. Elle est là, la différence. Et déjà, et les Italiens ont testé leur équipe avant et ont fait des 11 cohérents et avec 2, 3, 4, 5 fois le même 11. Je pense qu'en Espagne, si on a eu 3 fois de suite le même 11, c'est un miracle là, sur l'année et demie qui vient de s'écouler. Voilà, il y a eu énormément d'expérimentation. Vous parliez aussi de Morata, honnêtement. Voilà, pour gagner contre une équipe suédoise qui va être bien regroupée, bien bloc bas, il faut un numéro 9 de compétition.
Là,
pour moi, il est capable d'exploit, mais pour moi, Morata, ça va être beaucoup trop juste.
Un auditeur, on a Sofiane qui nous dit, justement, Sofiane à qui nous passons le bonsoir, 2-2 ce soir. Eh oui, match assez compliqué. Beaucoup de buts, peut-être. Alors, André, c'est un 2-2.
La première chose, c'est que cette équipe espagnole.
Alors.
Ne fait pas l'unanimité en Espagne. C'est la première chose. Encore une fois, quand Fred parlait d'expérimental, c'est le cas en Espagne. Mmh. Elle ne fait pas l'unanimité. Ah, c'est la réalité. En même temps, on sait parfaitement, et vous l'avez dit aussi, qu'en fait, cette équipe doit préparer le prochain mondial. C'est ça l'idée. Ce n'est pas le rôle, la première des priorités. Ouais. Et puis, sur la partie tactique des deux équipes, là où ça va être compliqué, effectivement, c'est de pouvoir jouer une équipe solide comme c'est les Suédois, parce que je suis d'accord avec Terence quand il dit que l'Espagne va pouvoir exploser à un moment donné physiquement, parce qu'effectivement des joueurs très techniques, mais effectivement je ne vois pas un Pedri, même un Rodri, pouvoir tenir le milieu espagnol face aux murailles suédoises. Et puis sur les 2-2, je trouve notre auditeur assez optimiste, parce que l'Espagne a un manque d'efficacité terrible. Offensive. C'est la réalité, on n'est pas là non plus pour descendre les Espagnols, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est loin d'être la grande Espagne, on est loin de montrer une grosse qualité de jeu, surtout quand on voit les matchs qu'on a vus. Donc où le 3-0, les 3 buts sont partout, à peu près partout dans tous les groupes. Donc je me vois mal aujourd'hui l'Espagne avoir cette capacité de marquer, voire deux buts face aux Suédois. Cela dit, l'Espagne reste quand même effectivement, parce que la qualité technique elle est là, reste quand même favorite de ce match qui va se jouer à Séville à 21h. Rappelez-vous tout simplement que hier, par exemple, l'équipe suédoise est allé s'entraîner à 14h30 pour pouvoir tenir le choc climatique. Parce que la chaleur est énorme.
C'est vrai, on se sent entraîné
à 14h30. Et ça peut
tu
être
fais bien
un,
de
facteur,
le rappeler.
Un facteur qui vient aider l'équipe espagnole.
On a un autre facteur aussi, c'est s'il y a 2-2, eh ben justement, notre auditeur encore, Soufiane, Juan Trossé, qui m'invite à boire un verre. Voilà. Ouais, c'est pas moi, je donne les dédicaces.
Il n'y a pas
de soucis, Soufiane. Voilà, le message est passé. Terence, Alisson et Fred.
Moi, je ne comprends pas que tu puisses te passer.
Espagne-Suède.
Je ne comprends pas que tu puisses te passer d'un joueur comme Thiago Alcantara.
Ah oui, totalement.
Je suis désolé.
Il n'a rien fait cette saison, il a à peine joué.
Mais même techniquement,
en termes d'expérience, je suis désolé.
Mais face au Portugal, il n'a pas été terrible non plus.
Non,
il n'a pas trouvé des solutions face au Portugal.
Mais sauf que dans la passe entre Pedri et lui, je suis désolé, c'est le jour et la nuit.
Je pense que sur une compétition
Pedri,
quand même,
pour les autres.
Mais je pense que dans une compétition comme l'Euro, on se doit, ça fait partie aussi des joueurs d'expérience. Thiago Alcantara, techniquement, ils doivent quand même être dans le groupe. Alors être titulaire peut-être pas, mais c'est toujours un second couteau, un joueur qui t'apporte une solution. C'est un joueur qui est énormément technique, qui va savoir passer les lignes et qui va te savoir aussi trouver la dernière passe. Mais là où, pour rebondir sur ce que tu disais, Juan José, le match de ce soir peut-être peut-être me donnera raison, mais c'est un quitte ou double quand même cette préparation, je trouve, pour l'Espagne, cette préparation au Mondial, parce que si l'Espagne explose dans cette compétition, ça sera quand même difficile, encore une fois, de retrouver un équilibre, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même l'année prochaine. Donc de retrouver un 11, de retrouver une équipe solide, de retrouver des automatismes. Donc je pense que cette compétition, elle peut être à la fois favorable si l'Espagne s'en sort et trouve un fond de jeu, et aussi destructeur, peut-être.
Alors, avant les pronostics,
après, je trouve que c'est dommage de passer d'un joueur comme Azpilicueta en termes d'expérience. Il a juste été monstrueux avec Chelsea. Il a juste été monstrueux. Tu préfères jouer un mec comme Laporte ou...
Non, c'est clair que tu peux être...
Je trouve ça complètement dommage. Et pour moi, il y a un joueur qui est sous-coté. Et c'est dommage. Il sort d'une saison de dingue. C'est Fabian Ruiz. Un gaucher techniquement parlant. Si tu veux pas faire jouer Thiago Alcantara, tu mets lui à la place de Pedri. Moi, j'aime beaucoup Pedri, mais Pedri, tu le fais jouer plus haut sur un côté pour qu'il aille à 2000, comme tu dis. Et là, la problématique.
Mais c'est des joueurs qui vont rentrer. Là, Thiago Alcantara, je pense qu'il va rentrer en cours de match.
Et Fabian aussi.
Peut-être en deuxième minute. Et Fabian, c'est pareil. Donc, c'est des joueurs, c'est des jokers cadre. Qui vont rentrer. Je crois que Manteno s'est intégré dans la tête de Luis Enrique. Et qu'on ne fait pas 90 minutes. Pour le milieu de terrain, notamment. Ils vont faire 60 minutes à peu près.
Si tu veux les faire rentrer, tu prends Pedri. Pedri, faut que tu le fasses rentrer après.
Pour les 30 minutes derrière.
C'est un joueur qui va à 2000 à l'heure.
Il va aller vite.
Tu uses les lignes avec des mecs comme Ruiz ou Thiago Alcantara, puisqu'eux, ils arrêtent pas de faire tourner le ballon. Et Pedri qui va à 2000, après, il fait la diff.
La question qui va se poser si ce match se passe mal pour l'Espagne, c'est-à-dire si l'Espagne ne gagne, déjà, s'il ne gagne pas, imaginez ce groupe. Avec les Slovénies.
Tu peux te retrouver avec un Suède Slovaquie
première du groupe.
Ouais,
avec l'Espagne et la Suède, avec un petit point s'il faut match nul. Imagine une défaite de l'Espagne alors. Mais et ça va poser une deuxième question, dont on débattra la prochaine fois. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid?
Parce qu'il a préféré la porte
dans cette. Dans cet effectif espagnol, on dira effectivement, et tu as raison, Alizan, voilà ce qui se passe, on ne fait pas venir les meilleurs.
C'est intéressant ce que tu dis.
Vas-y, pour terminer avant les pronos.
Et on peut le voir que, en fait, pour l'Espagne, ça a mal commencé dès que Luis Enrique a proposé sa liste. Il a été vivement critiqué sur sa liste. Oui. Enrique Garcia n'a pas joué de la saison, il est pris alors que Nathu, il a fait une super bonne saison. Basket. Il n'a pas été pris.
Sarabia non plus, Sarabia n'a pas fait.
Sarabia, il n'arrête pas de dire.
Sarabia, quand je vois Sarabia qui est titulaire contre le Portugal, mais c'est une escroquerie.
Je finis rapidement, Iago Aspas qui a fait une super saison qui mériterait d'y être. Sergio Canales qui a fait une bonne saison qui mériterait d'y être. Il y a plein de joueurs qui mériteraient d'y être et qui ne sont pas. Luis Enrique est habitué à faire des paris. Luis Enrique ne cherche même pas à combattre la presse. L'Espagne a une préparation tronquée. Les joueurs ne sont même pas ensemble. Les joueurs sont à 3 mètres. Les entraînements de l'Espagne sont avec des groupes séparés de 10 joueurs.
Il
n'y
aura pas
Busquets,
Covid-19.
48 heures avant le début de l'Euro, il y avait 39 joueurs, plus les joueurs qui ont été pris en plus pour combler la liste. Et sur ces 39 joueurs,
l'Euro. Oui,
c'est mieux que la France 90.
C'est le bordel, l'Espagne.
Toute l'actualité. Voilà, c'était le récital de Fred en cette fin d'émission. Voilà, il a mis le turbo, Fred. Justement, le pronostic rapide. Espagne-Suède, Alisson.
2-1 pour la Suède.
2-1 pour la Suède. Terence.
Idem.
Ouais. Prends trop c'est.
Non, c'est pas moi qui va dire qu'il a pas gagné.
Ah ouais.
J'ai mis en plus le maillot espagnol.
Bah oui, quand même.
1-0 pour l'Espagne.
Allez.
Et Fred?
Non, moi je vois pas plus que 3 buts dans ce match. Avant l'émission, j'aurais peut-être dit 2-1 pour l'Espagne, mais là je vois un match nul, je vois un 1-1.
Ah oui. Justement. Ouais. Allez, une petite dédicace aussi. C'est un pronostic. C'est Alisson et Kylian qui nous dit 2-1 pour l'Espagne. Voilà. Et
ça me va.
Et bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, l'émission, on tient à la décerner à un éducateur qui est Nabil, qui nous a quitté ce week-end. Eh oui, du FC Septem, un monsieur vraiment du football amateur qui était là pour tous ces jeunes. Voilà, une pensée à lui, à sa famille et à tous ses amis. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, la suite des programmes, et nous on se retrouve dès demain à partir de 19h.
Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.